Gilteau.
À Boulevard 102.1.
Émission en jazz de ce mardi 11 août. Très heureux, comme d'habitude, d'être avec vous. À la barre de cette émission, je suis avec Mathias Turcotte.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très, très bien.
Cool. Moi aussi, ça va super bien, honnêtement. Belle soirée hier, gym. Beau souper avec ma blonde.
OK, tu t'es gâté, là.
Ouais, ben après ça, tu sais, on est, je le répète toujours, l'animateur qui vous parle dans On en jase, le co-animateur qui vous parle le matin, il vit les mêmes réalités que vous. C'est une famille moyenne, recomposée, avec 4 enfants, puis le coup de la vie nous frappe. Fait que, après le petit souper avec ma blonde est partie faire son deuxième emploi. Moi, j'en ai profité pour me gâter un peu, écouter mon téléroman, La lutte, la WWE. On s'est rejoint dans le lit bien crevant à 9h30. Puis à soir, ben, c'est moi qui assume mon deuxième emploi avec de l'arbitrage au deck hockey.
Tu t'en vas te faire chialer après.
Ouais, je suis là après. C'est pas si tant pire, je te dirais, depuis que j'ai recommencé arbitreux. C'est sûr, il y en a tout le temps qui vont se plaindre du travail des arbitres. Mais ça, j'ai pour mon dire qu'on n'aide pas ces gens-là de la façon qu'on analyse le Canadien de Montréal, où on suranalyse la décision d'un arbitre, et ça, que ce soit TVA Sport, à RDS, ou nous autres même, au micro de Boulevard 102.1. Donc, on n'aide pas les gens à comprendre que le travail d'un arbitre, c'est pas facile, puis qu'il colle ce qu'il voit, puis qu'il applique les règlements du mieux qu'il peut. Fait que c'est ça. Moi, j'ai des fois des joueurs qui chialent trop. Je dis, hey, tu rates-tu un shot des fois, toi? Ouais, bah, ben, c'est ça, je rate le corps.
Ben oui, c'est normal. Ben, crime. Vous restez des êtres humains.
Ben non, c'est ça.
Vous êtes deux sur une surface complète, sur une patinoire complète.
Ah oui.
Pour couvrir toute une surface de jeu, c'est normal, vous voyez.
Moi, j'apprécie beaucoup un joueur qu'on aime me voir très calmement entre deux périodes pour me dire, hey, ref, sais-tu quoi? Le 24, l'autre bord, check les dons. Ça fait deux fois qu'il me donne un petit coup de bâton en arrière. Hein, là, parfait. Là, tu peux être sûr que le 24, je le check. Puis c'est le fait, ciao, bye, man,
c'est fini.
Exactement, mais ça, j'aime ça. C'est fait avec calme, c'est fait avec bienveillance.
Avec respect.
Avec respect. Puis c'est vrai que quand je me tourne le dos, ben malheureusement, j'ai pas des yeux tout le tour de la tête. Fait que le gars peut en profiter pour donner son petit coup de bâton. Mais ça, j'aime tellement ça, les poignets, parce que là, tu te revires de dos. Là, il pense que tu ne vois plus, mais tu fais juste regarder un peu par-dessus ton épaule. Toc, tu vois le petit coup, tu lèves le bras.
C'est fini, tu le calles.
Ah, que j'adore ce moment-là.
Tu parles de respect. Hier, j'ai joué au hockey. C'était le début de mes séries éliminatoires dans ma
hockey
ligue de garage.
Glace.
Ouais, hockey sur glace. Okay. Puis on a perdu en prolongation 7-6.
Hé, hey, quel match!
Mais je me suis rendu compte, parce que là j'ai 22 ans, tu sais. On jouait contre des jeunes qui devaient avoir comme 18 ans. Mais okay. Même ça se pouvait qu'il y ait 20
ans. Ça, c'est drôle qu'à 22 ans, tu parles de jeunes de 18 ans. J'adore ça.
Maudit qu'on est tannant. Hey, on est-tu irrespectueux au hockey?
Ah, c'est l'enfer.
Ça n'a pas d'allure, là. Ça chialait, ça criait. Les gars de l'autre bord, il y avait 3 coachs derrière le banc.
Tout ça parce que tu as mis le mot « série ». Le chiolage, je pense qu'il augmente parce que t'es en série.
Même en saison régulière, c'était une petite gain de Colin, eux autres. Là.
Oh.
Ils ont 3 coachs derrière le banc. On est un lundi soir à 8h dans une ligue de garage. On est là pour avoir du fun. Les trois jeunes qui sont derrière le banc à gueuler après les arbitres, à gueuler après des gars sur la glace.
Mais voyons donc.
Hey, maudit.
C'est quoi la ligue? Calmez-vous
un peu. Ben là, à un moment donné, les arbitres, ils ont pogné les nerfs puis ils ont dit aux 3 jeunes de sacrer le camp. Là, les trois
moi, une ligue de garage, je mettrais ça dans mes règlements. Pas le droit de coach.
Hey non, pour de vrai, là, j'étais assis sur le banc puis j'étais comme... Hey, en fait, je me suis dit, crime, c'était ça que j'avais de l'air il y a 3 ans quand je jouais avec mes chums. C'est ça qu'on avait de l'air.
Non,
non, mais qu'on était détestable.
Non, c'est vrai. Puis quand tu vas avoir 30, tu vas dire, boy, j'avais l'air de ça à 22.
Ah, ouais,
hey, moi, je sais là, que j'étais détestable à peu près au décoqué quand j'avais 19, 20, 21, 22. Fait que des fois, quand j'arbitre, puis il y en a qui viennent justement jouer sur ma patience, des fois, je me calme en me disant, ouais, t'es tant de même.
Ah non, ouais. Mais hey,
c'est ça.
C'est quelque chose.
Mais j'ai des arbitres aussi qui m'ont puni à l'époque quand j'étais comme ça. Fait que je me permets de.
De quand même le faire.
Ouais. Hey, je vais faire un lien justement. Parce que là, on parle évidemment que quand on fait du sport comme ça, en série, tout ça, des fois, il y en a que le cerveau est mis off. On perd notre intelligence avec la compétition sportive. Mais là, 418-971-1021, je vous le rappelle pour communiquer avec nous, parce que là, je suis certain que vous allez vouloir réagir. Il y en a qui n'ont pas besoin d'un match de série au deck hockey pour, au hockey sur glace pour avoir l'air fou. Il y a une certaine télé-réalité là, qui va recommencer au Panama.
Oui, ça
c'est-à-dire occupation double. Et là, on va faire un petit parallèle aussi avec notre ami Julien Médusa, là, évidemment, là, qui a encore fait parler de lui dans l'actualité. Mais là, guys, on va avoir une responsabilité ensemble, une grande responsabilité de parents, de mononcle, de cousins, de cousines. C'est assez, là, les téléréalités puis les streamers, là. C'est pas avec ça qu'on va avancer en société. On écoute notre montage des candidats d'Occupation Double.
Oui, ben c'est ça. On nous a comme aujourd'hui Occupation Double qui commence d'ailleurs le 6 septembre prochain.
Hey, on a-tu hâte, hein?
Nous ont dévoilé leurs candidats et candidates. Puis moi puis Max, on s'est fait du gros fun à écouter ça tout à l'heure.
C'est ça.
Maxime Larouche qui vous a fait un petit montage des meilleurs moments des nouvelles candidates d'Occupation Double.
J'ai hâte d'entendre ça. Ils ont, pour prendre l'expression à Yannick Marceau, là, eux autres, ils n'ont pas eu besoin de piger dans le sac à face, les filles qui vont faire Occupation Double. On écoute.
C'est Alexa, je viens d'Ottawa, mais...
Ah.
Oh, j'ai manqué
en fait,
de jour.
Je viens du
Nouveau-Brunswick. Ah, OK, je sais pas d'où elle vient.
Guys, I swear.
Wow.
Je m'appelle Alexandrie, je viens de Saint-Hubert, puis moi, je suis une petite croqueuse d'homme.
Ah, bon.
Moi, ma passion, c'est de cruiser. Ils m'aiment toutes, puis je les aime toutes. Fait que c'est pour ça que je suis encore célibataire, je pense. Tous les candidats d'Occupation Double finissent dans mes DM. C'est peut-être un signe aussi. Je m'appelle Amélie, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je joue au soccer, je fais du pilates, mais en ce moment, mon sport, c'est faire la tournée des bars.
Oh, ben oui.
Je vais un petit 2-3 fois semaine. Moi, c'est Rebecca, je viens de Québec. Moi, là, je veux un grand 6 pieds en montant, des abdos, des muscles pour que je te liche ça à grandeur.
Ah, ben oui! Hey, c'est des beaux
le
modèles!
C'est que c'est vraiment moi, là!
Hey, tout fière!
Moi, je vais te cruiser tout ce qui bouge, puis il va probablement frencher toute la maison des gars. Ah, je peux pas croire que je vais dire ça à TV, là. Les pauvres parents. Moi, là, je te fixe dans les yeux, puis souvent, le gars, il tombe direct en amour. Puis il est tout déstabilisé, puis il est « Ah, t'es belle. » Moi, tu me dis Panama, là, je pense pas tout à Pommier ou Chaleur, je pense à frencher les mecs, là, puis leur licher une chess.
OK.
Rebecca.
OK, c'est
ça,
Rebecca,
c'est la dernière,
ça.
Ouais.
Bon. Marie-Ève qui écrit. Un livre mort chaque fois que quelqu'un qui écoute Occupation Double. Ça fait des années que je n'écoute plus ça. OK, là, c'est parce que vous allez peut-être me trouver tannant puis têteux, puis 418-971-1021, s'il vous plaît, pour réagir. Là, Jérémy qui disait, hey, là, les streamers, les télé-réalités, toutes ces affaires-là, là, c'est triste de voir tout ça. Kim qui nous dit c'est l'enfer de les entendre. Les gens qui écoutent ce genre de télé-réalité, ça vole pas haut. Mais c'est ça le problème. C'est que c'est encore populaire chez les jeunes. Puis moi, j'ai eu une conversation, je te dirais quand même assez, je vais dire, animée avec mes gars l'an passé qui écoutaient Occupation Double pour dire, OK, là, attendez une minute, là. Vous avez conscience là, que... c'est pas la réalité, puis que c'est on a pris vraiment des gens qui ont pas le quotient intellectuel très élevé, là, vous avez conscience
Pour le dire poliment.
Oui, pour le dire poliment, parce que je peux pas croire, moi, puis là, tu sais, je mets la blonde de mon Elliot là-dedans, qui écoute ça aussi religieusement, je me dis, hey, fille, il faut pas que tes modèles féminins, ça soit ça, là. On aurait posé la question, qui est la première ministre du Québec, il aurait pas été capable de répondre. Il y en a une qui se souvient même pas qu'elle habite au Nouveau-Brunswick, là.
Tu viens d'où? D'Ottawa? Ouais.
Non, je me suis trompé, je viens du Nouveau-Brunswick.
Je veux pas t'obstiner, mais sur notre feuille, nous autres, il est marqué Nouveau-Brunswick.
Ben non, c'est ça. Ah oui! C'est vrai, j'ai oublié. Non, mais c'est parce que... je pense qu'on est rendu à une étape où les streamers, les télé-réalités, ces affaires boboches-là, là, ça dépasse l'entendement. Là.
Ouais, mais tu sais, mettons Occupation Double, tu vois, je vais faire mon mea culpa, je vais l'écouter, moi. Puis,
okay.
Je tiens à préciser tout d'abord, c'est pas nécessairement par mon choix, c'est que ma blonde aime beaucoup écouter Occupation Double, puis elle aime beaucoup quand je l'écoute avec elle, parce que justement, j'écoute ça, puis je passe mon temps un peu à insulter tout le monde à l'écran, fait qu'elle trouve ça bien drôle, là. Mais fait que je vais l'écouter avec elle. Puis tu vois, occupation double, à partir du moment où tu mets ton cerveau à off, que t'es conscient que c'est pas de la réalité. Puis moi, quand j'écoute ça, je passe un peu mon temps à rire de tous tes candidats. Ouais. Ça peut quand même être du bon divertissement
ben,
par moment.
C'est vrai que ça peut être de la sensibilisation à l'inverse, c'est-à-dire voici ce que je ne veux pas devenir.
Oui, oui, exact.
C'est dans vrai.
Dans certains sens, oui.
T'as raison. Mais là, si vos enfants écoutent ça, là, surtout vos adolescentes, là, de grâce, une petite conversation avec elles, là, faut pas que leur rêve, ça soit de devenir cette personne-là.
Mon nom, c'est Alexa. Je viens d'Ottawa, mais... Oh, j'ai manqué
en fait,
de jour.
Tu viens du Nouveau-Brunswick.
Je viens du Nouveau-Brunswick.
C'est ça. Faut pas que ça soit le modèle de votre adolescente de 16 ans, de 15 ans, qui présentement se dit « Comment je pourrais faire pour devenir une vedette? » Non, elle travaillera fort, elle ira faire des cours de théâtre, elle ira justement à l'école de l'humour. Il faut pas qu'elle devienne la cocotte qui sait pas d'où elle vient. Là.
Ah non, faut. Tu sais, c'est pas des exemples. Ça, je suis d'accord. C'est pas des exemples pour les jeunes. Effectivement, le fait que quand tu regardes un peu au cours des derniers jours, tout ce qui s'est passé du côté de Miami, puis après ça, t'as Occupation Double qui annonce leur candidat, puis on s'entend comme chaque année, c'est pas les plus grandes lumières de notre société.
Je vais licher le torse, moi je les French toutes. Tabarnouche.
Tout le monde pense à palmier, moi je veux juste licher des chests.
Ah voyons, ouais, puis écoute, c'est dans les descriptifs, là, tu sais, franc-parler légendaire, fait que là on sait qu'il y en a plein qui vont s'engueuler. Charmeuse naturelle, célibataire depuis un an, tu sais, ça le dit pas de même, mais j'ai couché avec tout ce qui bouge, fait que là, j'étais à occupation double. Ouf, l'air. Faut arrêter d'écouter ces affaires-là. Faut que ça arrête, ces émissions-là.
Kim qui me dit, Mathias, c'est une perte de temps d'écouter ça. J'ai pas le choix d'être d'accord, mais encore une fois, on en fait beaucoup de pertes de temps. Là. Quand t'es sur Facebook, c'est une perte de temps. Sur Instagram,
en effet, t'as entièrement raison.
Tous tes réseaux sociaux, c'est un peu une perte de temps. Je pense qu'à un moment aussi, ça finit par être un divertissement comme un autre.
Ben, c'est un bon point. Moi, mon point, c'est juste, si vous avez des enfants qui écoutent ça, là, prenez la peine de leur parler. Prenez la peine de leur dire, ça, c'est pas la réalité, puis je veux vraiment pas, ma petite fille, que tu deviennes à 24 ans comme Rebecca de Québec.
Mais je me pose la question, mettons que vos enfants aient une occupation double, vous en tirez comment? Tu sais, est-ce que ce serait une déception automatique?
Ouais? Total. Si j'avais eu une fille, puis que ma fille était dans ce montage-là, je regarderais la mère des enfants, je me dirais, on a raté notre coup. Là.
Mais encore une fois, ça dépend, tu sais, la fille qui a oublié où qu'elle habite ou la fille qui veut licher des chess, OK? Mais il y a d'autres personnes par moment qui sont pas si pires que ça quand même.
Ah, peut-être, mais.
Ah, ouais, toi. Ouais.
Ah, non. Toi, je serais sidéré. Pour de vrai, là, je me prendrais la tête dans mes deux mains, puis là, je me dirais où est-ce que je l'ai raté. Puis peut-être que mes deux mains resteraient sur ma tête pour une période de 48-72 heures. Là. C'est... Aïe. Ouais, je rejoins le dernier texto qui est rentré. C'est juste triste, car d'une certaine façon, on donne de la visibilité à ça. Et je crois qu'on encourage ce genre de personnes à continuer. T'as entièrement raison. Parlant de genre de personnage, Julien Médusa... Là, tout le monde a sacré son camp, c'est ce que je comprends?
Ouais, en gros, pour revenir, là, le Streamfest qui avait lieu du côté de Miami, Médusa qui a fait le tour des réseaux sociaux pour des propos misogynes, puis tous les streamers ont décidé de quitter avant, justement, la fin de ce fameux Streamfest.
Fait que là, ces streamers-là qui avaient rouvert les caméras après qu'ils aient dit à 180 000, devraient tous se mettre à quatre pattes devant moi. Là, vu que ça a fait une tollée au Québec, ils ont dit « Ah, on va s'en aller. »
On va se détacher de ça.
OK, fait que leur valeur est allée avec le fait que ça l'a fait scandale au Québec, c'est ce que je comprends?
Ça ressemble un peu
à ça. Oui, c'est ça, parce que c'était pas grave tant qu'on était en chum, puis qu'on s'amusait, puis qu'on riait des femmes qui pouvaient se mettre à quatre pattes, mais là, ils sont partis. Fait que là, j'imagine que notre ami Julien, il est triste.
Il a fait une vidéo sur ses réseaux sociaux pour expliquer la situation dans laquelle il dit que, justement, les streamers ont quitté, puis que maintenant, il est avec ses vrais chums.
OK, parfait. On écoute Julien Médusa.
Ce qui s'est passé, là, tous les streamers sont partis. Il n'y a plus aucun streamer dans la villa. On est rendu seulement Médusa avec mes vrais boys, mes vrais amis. Tout le monde, j'ai fait venir mes chums. Même les invités, genre, il y en a qui se sont fait écrire par les streamers, ils veulent plus venir. Fait que tout le monde est cancellé, ils ont trop peur du hit puis du scandale.
Ouais, fait que là, ses vrais chums sont là pour le soutenir.
Ah, c'est ça. Les autres, c'était... Ben,
c'est sûr que Cocotte était proche de se faire violer, fait que là, je la comprends d'être
passée. Ouais, c'est ça, mais tu sais, en même temps, ils sont quand même restés 3 jours, là.
Les streamers, ça?
Les streamers sont restés 3 jours.
Ah oui, puis moi, là, j'ai aucun respect pour eux autres, là. Puis justement, là, je le réexplique, là. A fallu que ça fasse scandale au Québec pour qu'ils sacquent leur camp de là. Parce que sinon, ils trouvaient tout ça bien drôle de mettre ça sur leurs réseaux sociaux pour avoir des vues, là.
Hey, 3 jours, c'est long.
Les valeurs, là.
3 jours, c'est
ouais,
long.
C'était au yable les valeurs. Moi, ce qui compte, c'est les likes puis les vues, parce que comme ça, je vais avoir des sponsors. Mais là, vu que ça a fait scandale au Québec, ils ont dit « Hé, moi, sûrement perdre mes sponsors, là. » Fait que là, ils reviennent tous à la vertu. « Oh non, c'est pas correct ce que Julien a fait et a dit. » T'as fait quoi pendant 72 heures?
T'as allumé ta caméra puis t'as décidé de tout diffuser quand même.
Exactement. Pourquoi? Parce que tu pensais que c'était payant, que ce serait payant. Fait que moi, les Lewis de fou de ce monde, là, excusez-moi, mais vos valeurs, là, vous me les avez prouvées en restant là 72 heures.
C'est d'hypocrisie. On allait profiter de son argent, de ses bateaux, de sa villa, des bouteilles d'alcool qui coûtaient une fortune.
Ouais.
Des montres de luxe, là. Hey, j'ai vu une vidéo des Buck Boys qui était un des streamers qui était présent sur le bateau. En dehors du bateau, il parlait des propos de Médusa après avoir quitté en dénonçant avec la Rolex à Médusa sur le poignet.
Il n'y a pas plus hypocrisie,
ça?
Il n'y a pas plus.
Il y a encore la montre de luxe que l'autre y a donné.
Ouais, parce que là, à ta minute, il est venu jouer contre mes valeurs après 72 heures. Fait que ça, je crois pas partout, mais il m'a donné une montre.
Hey,
il
a belle
la gardé, hein?
C'est une belle montre, ça!
Ah ouais, le gars, là, je l'aime vraiment pas, mais il m'a donné une montre!
T'as des beaux diamants, tu
sais! Ben, c'est ça! Hey, ben, regardez la montre, par exemple, m'a montré à mes chums, gars, ma belle montre! T'as eu ça comment? Ben, j'étais sur le bateau à Médusa! Ouais, mais t'es pas parti parce que ça correspondait pas à tes valeurs! Pas grave! Une montre!
Non, un peu ridicule.
Quel ridicule. Parce que le ridicule ne tue pas. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que Julien Médusa ne file vraiment pas. Ça va vraiment pas bien pour lui.
Ouais, c'est dans une story hier qu'il a publié sur ses réseaux sociaux qui est complètement en larmes, en accusant en quelque sorte le Québec de l'avoir brisé. Là, je vous dis ce qu'il a dit parce que c'est pas trop clair. Là. Il y a de la misère à articuler.
Bon, le Québec l'a brisé. Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, c'est fort simple. Julien Médusa, un homme d'affaires ici à Québec, que des bijouteries, dont une ici dans le complexe Le Bourgneuf, a invité 7-8 streamers sur un bateau. Il a loué ça 180 000 piastres à Miami pour faire le party. Il a dit un paquet de sottises comme Cocotte, une influenceuse, ça se fait violer, c'est la crise parce qu'elle se fait violer. Puis vu qu'il a payé 180 000, le personnel devrait tout se mettre à quatre pattes devant lui, puis les filles devraient le sucer. Bon, on y va, devrait y faire une fellation, on y va comme ça. C'est toujours triste voir quelqu'un qui file pas. Donc, j'espère que Julien Médusa va aller se faire soigner. Si jamais vous êtes dans une situation où vous ne filez pas, c'est le 1-866 appel. Ceci dit, c'est pas le Québec qui l'a brisé, là. C'est lui-même qui s'est brisé.
C'est ses propos, c'est sa responsabilité.
Il n'y a personne qui a dit de faire ces propos-là. Là. Et c'est normal que quand tu fais des propos comme ça, qui sont complètement à l'encontre du gros bon sens et des valeurs québécoises, mais que le Québec en entier se lève et dise « Hey, mon homme, t'es un cabochon. That's it. »
Tu sais, c'est parce que t'as une business, c'est le monde qui vient dans tes commerces qui te font vivre, puis c'est ta visibilité sur les réseaux sociaux qui te font vivre. À partir de ce moment-là, si le Québec décide « Hey, on a vu ce que tu penses, on a vu ce que t'as dit, on veut plus rien savoir de toi », ben, on a-tu le droit de penser ça?
Ouais, exactement.
Avec les propos qu'il a dit,
oui.
C'est pas vrai que c'est de la faute de la réaction au Québec qu'on a eu face à ces propos-là. La responsabilité, c'est lui qui a dit ces propos-là.
Ben, assume tes responsabilités. Moi, quand j'arrive, je commets une erreur, ben je m'excuse. Puis je prends les pistes de solution pour corriger mon comportement. Julien Médusa a juste une très grande introspection à faire de lui-même. Pour faire en sorte que, justement, c'est pas le Québec qui l'a brisé, mais lui-même. Puis à partir de là, ben sais-tu quoi? Il va vivre avec les conséquences de ses actes jusqu'à la fin de ses jours. Comme Julien Lacroix, l'humoriste, a vécu avec le fait que, justement, il avait eu des comportements sexuels déplaçants vers les dames. Quand il a essayé de revenir en humour, quand la gang de Juste pour rire ont essayé de le remettre, ben, y a des gens qui ont dit « Hey, il n'y en est pas question que ce gars-là fasse partie de notre communauté parce que ça va à l'encontre. » C'est comme ça. C'est la vie. Dans la vie, il faut être équilibré. Dans la vie, il faut... même si on a beaucoup d'argent, puis même si on pense détenir un certain pouvoir, ben quand tu l'échappes, tu l'échappes. Je vais donner un exemple aux États-Unis. Tony Romo, l'ancien carrière des Cowboys de Dallas, l'analyste de football le mieux payé des stations de télé à 17 millions de dollars. Il s'est fait prendre pour alcool au volant, puis CBS a dit « C'est-tu quoi ton petit contrat de 17 millions de dollars? » Tiens,
terminé.
C'est déchiré. C'est terminé, t'en auras plus un sou, c'était dans ton contrat, t'auras plus un sou de nous autres, puis t'avais juste à pas être sou hein, pour faire un mauvais jeu de mots, mais c'est ça. Alors, c'est pas moi qui va pleurer sur le sort de Julien Médusa, c'est pas Nadine également qui est une de nos auditrices. Laurie qui écrit en parlant d'Occupation double, puis je trouve ça bon, là. Les gars, capote tes pas avec plein de bonhommes sourires, c'est juste un show pour faire parler d'eux, puis ça marche, il y a rien de sérieux là-dedans. Je suis entièrement d'accord avec toi, Laurie, c'est juste que je veux qu'on sensibilise notre jeunesse, que justement, c'est un show. Puis je veux pas qu'il y ait de petites filles au Québec que ça leur tente d'être Rebecca, 24 ans, barmaid, qui dit « Moi, je veux licher les torses. » Puis je veux pas non plus que nos adolescentes aspirent à être cette personne-là.
Allô, mon nom, c'est Alexa. Je viens d'Ottawa, mais... Oh. J'ai manqué
en fait,
de
jour. Je viens du Nouveau-Brunswick.
Pas la même province, pas la même ville, dans le même pays au moins. Bravo, mais si j'avais demandé à Alexa qui est le premier ministre du Canada,
pas sûr d'avoir une réponse intelligente.
On n'aurait pas eu la bonne réponse. Avant d'avoir Lanny Dufour qui va venir nous voir en studio, elle est chroniqueuse politique et économique pour nous. Elle est directrice aux affaires gouvernementales pour Catapulte Communication. On va revenir sur les derniers sondages d'intention de Léger. Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Ouais, ben, je commence à la circulation Pont-Pierre-Laporte, direction sud, à la fin du tablier. Il y a présentement un incident, la voie de droite qui est bloquée pour ça. Puis ça crée un gros ralentissement dans le secteur là, sur le Henri IV en direction sud, justement, pour traverser le Pont-Pierre-Laporte. C'est du pare-choc à pare-choc. Là, ça remonte jusqu'à Versant-Nord pour le moment. Sur Duplessis, ça remonte jusqu'à Chemin-Sainte-Foy. Donc, armez-vous de patience dans le secteur. Sinon, le pont de Québec, ça circule plutôt bien pour le moment. 20 ouest aussi, vous signaler entre Taniata et président Kennedy, c'est très difficile. Dans l'actualité, une nouvelle de dernière heure, j'ai envie de dire, soupir de soulagement pour plusieurs garderies. Le gouvernement du Québec accorde finalement un délai aux garderies en milieu familial. À partir du 1er septembre, le gouvernement demande c'est la nouvelle réglementation, va demander aux garderies en milieu familial d'avoir une reconnaissance gouvernementale, sans quoi elles devront baisser leur nombre d'enfants de 6 à 2 ou tout simplement fermer. Donc, c'était 1100 garderies qui étaient menacées justement par cette nouvelle réglementation-là. Ce qu'on a indiqué du côté du gouvernement du Québec, c'est que les garderies qui ont fait leur demande de reconnaissance d'ici le 31 août, donc la veille du 1er septembre, pourront garder leur garderie ouverte en attendant qu'on fasse les vérifications. Ce qui traînait de la patte, c'était les vérifications pour s'assurer que les personnes n'aillent pas de casier judiciaire. Mm-hmm. C'est ça qui était là. Donc, si, par exemple, les propriétaires de garderies font leur demande de reconnaissance, ils vont devoir jurer sous serment avoir un casier judiciaire vide. Et s'ils font ça, en attendant que les vérifications soient terminées, ils pourront demeurer ouverts justement en raison des délais administratifs. C'est 21 entreprises basées entre autres aux États-Unis, en Corée du Sud et en Chine qui ont levé la main à la suite de l'appel d'intérêt international lancé par le gouvernement Fréchette pour un troisième lien à l'est entre Québec et
Lévis. On va avoir notre troisième lien?
Ouais, ben excite-toi pas trop vite,
non.
Jeff. Non, c'est pas un appel d'offres formel.
C'est
juste 21 entreprises qui sont intéressées. Donc, le gouvernement qui se donne jusqu'à la fin août pour analyser les différentes propositions reçues.
J'étais sûr qu'on l'avait.
Par la suite, ce serait en novembre qu'on aurait ensuite une idée un peu plus du coût de quelle entreprise ferait justement le projet. Mm-hmm. Donc, après des élections provinciales, donc on va avoir...
La CAQ va être encore au pouvoir.
Ouais, ben ça, c'est pas sûr. C'est ça le problème.
Ah, OK. Donc, quatrième élection, on promet un troisième lien. Ça va bien. C'est l'immobiliste à son meilleur.
La présentation des candidats se poursuit pour plusieurs partis, à commencer par le Parti conservateur du Québec qui va présenter Patrick Paquette, ancien conseiller municipal à Québec dans Vanier-des-Rivières.
Ancien chef de Priorité Québec. On va l'avoir en entrevue aux alentours de 13h10. Patrick Paquette qui a perdu dans le Bonneuf avec équipe Sam Hamad aux dernières élections municipales.
La CAQ a annoncé de son côté son candidat dans Lobinière. Ce sera Roch Gamache, un homme qui a œuvré dans plusieurs cabinets au sein du gouvernement, dont celui de Christine Fréchette. Il s'opposera, entre autres, à Renaud Labrec pour le Parti conservateur et la maire actuelle de Saint-Apollinaire pour le Parti québécois. C'est présentement une course à trois menée par le Parti conservateur dans Lobinière.
Bonne chance à M. Gamache qui se présente contre deux personnes très connues dans leur milieu. Alors, présentement, la CAQ est troisième. C'est quand même serré. 33% pour le PCQ, 25% pour le PQ, 23% pour la CAQ. Mais je savais un petit deux à mettre. Ça va être entre Renaud Labrec ou Jonathan Moreau, le maire de Saint-Apollinaire. Ça fait le tour?
Ça fait le tour.
On se parle. Les Capitales de Québec sont de retour ce soir à domicile. Les Capitales, ça va très bien. 52 victoires, 25 revers. Balayage contre les Jackals ce week-end. Ils sont de retour face à Broxton. Je vous rappelle, le 20 août prochain, le gin à 50%, les jeux du gin à 50%, c'est le match boulevard des Capitales de Québec. Max Larouche qui va faire le lancer protocolaire. Les billets sont en vente au capital.ca. Les Jays de Toronto l'ont emporté 2-1 sur les Red Sox de Boston hier. On continue d'espérer de se tailler un poste en série. On est à seulement 3 matchs et demi des séries, mais les Jays doivent dépasser 5 équipes. Ce soir, c'est l'Horace. Dylan Cease au Monticule, 184 retro bâtons, 126 manches et un tiers. Donc, belle opportunité pour les Jays d'engranger une deuxième victoire consécutive contre des rivaux de division. Et dans la NFL, Quinnen Williams, le joueur de ligne défensive des Cowboys de Dallas, a signé une prolongation de contrat, tiens-toi bien Mathias, de 3 ans, 105,9 millions de dollars avec 63,35 millions de dollars garantis. Il devient le deuxième joueur de ligne défensive, là, tu sais, qui sont dans le centre et qui sont vraiment là pour tenter de bloquer la course au sol, le mieux payé de la NFL. Cette prolongation de contrat-là l'amène jusqu'à la fin de la saison 2030. Williams a été aux prises avec des blessures lors des deux dernières saisons. Il est passé aux Cowboys de Dallas, des Jets de New York, à la date limite des transactions l'an prochain. Mathias, le vote francophone s'est envolé au niveau du Parti libéral du Québec. PSPP stagne à 30% et la CAQ monte chez les francophones. C'est le résumé à l'heure actuelle du sondage Léger. On va le regarder plus en détail après cette courte pause à Boulevard 102.1. On regarde le tout avec Lannie Dufour, chroniqueuse politique et économique et directrice principale des relations gouvernementales chez Catapulte Communication. 102.1. Émission d'En Jase de ce mardi 11 août. À la météo, je vous dirais, c'est 22 degrés pour le moment. La bonne nouvelle, c'est que on va aller à 23 degrés, puis c'est seulement 30 % de possibilité d'averse. Donc, on va peut-être s'en tirer, guys, avec la température. Si jamais il arrive quelque chose, ça va être un orage vers la fin de journée. Ça va être partiellement nuageux ce soir. Il va toujours planer ce fameux risque d'orage. Demain, mercredi, c'est 23 degrés avec aussi des possibilités d'averse cette fois-ci en après-midi. Pour jeudi, c'est nuageux, 20 degrés à 60 % de possibilités d'averse et retour d'alternance soleil et nuages vendredi. 21 degrés. Mathias, passe-tu quoi à circulation?
Ouais, ben, j'ai pas le choix de vous rementionner un incident en sortant du pont Pierre-Laporte en direction sud, la voie de droite qui est présentement bloquée, puis ça crée un gros ralentissement, notamment sur Henri IV. Là, c'est pas mal un parking jusqu'à Charest. Duplessis, ça remonte jusqu'à Versant Nord présentement en direction sud pour accéder au pont Pierre-Laporte. Également, 20 direction ouest, on s'en sort pas entre Taniata, Président Kennedy, c'est au rouge. Guillaume Couture, quand même un peu d'attente pour traverser à hauteur de chemin du fleuve. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Plusieurs façons de nous écouter. L'application BLVD 1021 qui est disponible gratuitement sur App Store, Google Play Store. Vous avez aussi notre web radio sur le blvd.fm et avec votre haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD 1021 » et on apparaît dans vos oreilles. Gros sondage Léger paru ce matin. Un électeur sur deux ne sait pas encore pour qui il va voter. Son choix n'est pas arrêté. Ça sera donc une campagne électorale énormément passionnante pour des cracks de politique comme moi et comme nos auditeurs. Et pour parler avec nous, on a Lani Dufour, chroniqueuse politique et économique et directrice principale des relations gouvernementales chez Catapulte Communication. Lani, comment vas-tu?
Salut, ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. T'as passé un bel été?
J'ai passé un bel été, mais tu sais que nous, au Saguenay, on a une partielle qui
c'est
se passe.
C'est vrai!
Relax pas, j'ai rencontré Marc Carney.
Comment il allait, Marc?
Il allait bien. J'ai dit enchanté, il m'a dit enchanté, notre conversation s'est terminée.
Bon, excellent. Ouais, c'est là qu'il a dit que les négociations étaient très difficiles avec les États-Unis. Partiel en plein été, justement, quand je vais te poser la question, toi qui as deux pieds dedans, c'est comment les gens parlent-tu? Ça passe-tu dans le vide? Moi, j'ai l'impression que c'est une grosse partielle. Ils sont pratiquement nés à nés, les trois, là, conservateurs, libéraux et blocs.
Ça va être une course serrée. Je te dirais que c'est peut-être même plus deux, là, sans rien enlever aux conservateurs. Ça reste que quand on regarde les candidats qui sont là, tu sais, Daniel Gobeil puis justement Caroline Dubé, c'est des bonnes machines terrain. Là. Les libéraux vont déployer. Là, tu fais déjà quasiment deux, trois fois que Lightbound vient. Les ministres vont continuer de revenir. Là, on a eu le premier ministre. Lundi, ben hier, on avait Pierre Poilievre. Ouais. Mais tu sais, je te dirais que Bloc québécois, dans la région, a quand même aussi pas mal de bénévoles. Fait que ça fait en sorte que ça va continuer. Mais tu sais, pour répondre plus spécifiquement à ta question sur l'été, écoute, il y a eu un spin là, des oppositions qui disaient que c'était scandaleux, mais tu sais, ça reste qu'on parle d'une élection partielle. Je comprends que c'est pas l'idéal, ça va chevaucher un peu. Mais là, on parlait de risques et tout ça. Tu sais, j'étais comme, on va dédramatiser un peu. Là, on parle d'aller voter. Là.
On en met-tu un petit peu trop sur les élections partielles parce qu'il y a plusieurs conservateurs qui ont traversé la chambre chez les libéraux. Puis c'est un peu comme ça que les libéraux ont acquis leur majorité. Pas un peu, c'est comme ça qu'ils l'ont acquis.
Ouais.
Puis parce qu'au Québec, on dirait que l'élection partielle de Jean Talon, Pascal Paradis, a passé comme une tonne de briques. Ça signifie le début de la fin pour la CAQ. Puis pour nous, c'est comme devenu un élément marquant.
Bien, pour les libéraux, je te dirais que libéraux au Canada, de choisir Saguenay parce qu'il aurait pu aussi aller dans le coin de Saint-Hyacinthe, c'est parce qu'il semblait avoir justement des indicateurs qui étaient favorables parce qu'il aurait pu attendre. Il n'était pas obligé de la déclencher là.
Ouais.
S'ils veulent y aller maintenant, c'est que c'est un symbole fort aussi dans les négociations avec les États-Unis, puis on pourra en reparler parce que la région, l'aluminium, le bois, tout ça... très affecté là, quand on regarde justement les statistiques par les tarifs. Il y a la base militaire de Bagotville, il y a le port de Saguenay. T'sais, il y a comme tous les atouts pour qu'ils puissent justement scorer fort en termes de propositions puis de renforcer un peu les différentes actions qu'ils ont voulu prendre avec les minéraux critiques. Il y a aussi un grand projet plus ferroviaire, corridor du Nord canadien, exact. Donc, ça fait en sorte que pour eux, de déployer les ministres, tout ça... ils font un gage, là, parce qu'ils font pas, ils déclenchent pas ça pour perdre leur majorité. Là.
Non, en effet.
Les trois qui ont déclenché, c'est parce qu'ils semblent justement être favorables, parce que sinon, ils auraient attendu le délai prescrit là, de 6 mois à peu près.
Tant qu'à être là-dedans, parlons-en, les négociations viendront au sondage plus tard. C'est une semaine cruciale pour le Canada cette semaine. Dominique Leblanc est à Washington. Là, on parle beaucoup de... je donne quoi en retour de quoi? L'alcool va-t-il revenir ses tablettes de la SAC au niveau de l'alcool américain? On parle de produits laitiers que Donald Trump voudrait avoir justement une entrée de produits laitiers aux États-Unis. Nous, le bois d'œuvre est touché de façon très dure à l'heure actuelle. Tu t'attends à quoi? T'sais, moi, on dirait que on a tellement fait de négociations qui n'ont jamais rien abouti que j'ai pas d'attente. Toi, as-tu des attentes?
Bien, c'est un peu ça que le premier ministre disait quand il a fait son petit speech là, au restaurant, de dire que ben malheureusement, t'as beau conclure une entente, ce qui est imprévisible, c'est Donald Trump, littéralement. Donc, du jour au lendemain, il peut quand même changer d'idée, même si on s'entend avec lui. Je te dirais que la plus grosse critique qui vient à l'égard de ces négociations-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de transparence. T'sais, on a un Donald Trump qui négocie sur la place publique. Je comprends qu'on veut être l'adulte dans la pièce, mais pour les entreprises qui sont principalement touchées, là, moi et toi, on voit pas tant la différence ou l'impact sur notre quotidien.
En effet.
Ben eux, ils aimeraient ça avoir plus de prévisibilité puis dire, écoute, nous, là, l'alcool, on est capable de le concéder. Là. Au final, c'est pas ça qui nous affecte, mais le 50% qu'on a au-dessus de la tête puis qu'est-ce qui était protégé par la CEUM qui, là, c'est un peu chambranlant, la gestion de l'offre, tout ça, c'est des choses qui, si on les laisse aller, ben justement, les impacts vont être beaucoup plus grands. On parle là, de bois et aluminium, de millions de dollars par semaine qui sont donnés juste en tarifs. Là. Fait que, quand on dit ça, c'est de l'argent qu'on n'a pas puis qu'on doit débourser. Puis en même temps, de l'autre côté, ben les États-Unis, ils ont besoin du Canada. Puis ça, je le répéterai jamais assez, là, de penser que, tu sais, se mettre un peu les œillères puis dire, ben non, ils vont tirer la plug puis c'est fini le commerce. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis entre entreprises puis entre États, il y a une très grande volonté de trouver des voies de passage différentes que par le fédéral. On a la consul générale ici à Québec. Si jamais vous l'avez en entrevue, elle parle très bien français puis est vraiment très engagée dans cette situation-là. Parce que, justement, il y a des leviers en ce moment qui existent, même s'ils ne sont pas parfaits, pour contourner les tarifs, parce que les États qui sont surtout sur la frontière, là, ben, ils voient qu'ils ont besoin du bois canadien, notamment. Là.
En effet, on avait Gabriel Hardy en entrevue hier, c'est disponible sur le blvd.fm, il disait le même langage que son chef, le Maton Saguenay, qui avait dit « bah, c'est assez concession, faut plus en faire ». On en a parlé vendredi, Mathias et moi, parce que quand Mathias me dit « hey, si on remettait l'alcool, ses tablettes, peut-être qu'on aurait pu le 50 %, mais j'ai dit « ah, va être deal, on remet ses tablettes ». Puis là, Mathias me dit « ouais, mais à ta minute, on est toujours en train de faire des concessions. Tu te situes où, toi? Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir continuer d'en faire des concessions si on veut arriver à quelque chose qui va relancer notre bois d'œuvre, notre aluminium, notre acier.
C'est des leviers qu'on avait, justement, d'enlever l'alcool sur les tablettes puis de justement, pas renégocier ce qui était sous la CEUM. Mais effectivement, quand je dis d'être l'adulte dans la pièce... Je ne sais pas si vous avez vu les ententes avec les autres pays. Ça ne tient pas à grand-chose non plus. Là.
Exactement.
Fait que, tu sais, il faut vraiment y aller, je pense, avec qu'est-ce qui aura le plus d'impact. Je pense qu'il faut quand même tenir notre bout, mais quand tu es en égo, tu n'es pas en confrontation. Puis ça, je pense que c'est la base de la négociation. Tu veux être ami.
Ouais.
Fait que, tu sais, si tu laisses tomber ça, je comprends qu'il y en a certains, surtout, tu sais, on a Doug Ford qui aimerait ça qu'on soit beaucoup plus frontal. Bien, si ça permet de justement s'entendre sur d'autres éléments, ne serait-ce... Pardon.
On te pardonne.
Ne serait-ce qu'il soit abordé à la table de négo. C'est juste que là, on ne sait pas qu'est-ce qui se dit à la table de négo. C'est peut-être une bonne chose si ça avance, mais c'est quand même quelque chose, comme je vous disais, qui est critiqué parce qu'on a ce qui sort de l'autre côté, la menace du 50 %, mais nous, on est comme, OK, mais il se passe quoi du côté canadien? Est-ce qu'on a vraiment des leviers? On n'a pas l'information. Puis Mark Carney... C'est pas quelqu'un qui aime beaucoup quand l'information coule.
En effet.
Il aime ça quand même, garder ça serré. Fait que ça, c'est un autre élément là, qui est pas justement à l'avantage, puis qui fait qu'on en parle un petit peu moins ou qu'on a l'impression que ça avance pas. Mais peut-être que c'est pas ça non plus qui se passe.
T'as entièrement raison. Réacho 418-971-1021. Je parlais du sondage léger tout à l'heure. On a reçu plusieurs textos qui disent « Je sais pas encore pour qui je vais voter ». Donc, des électeurs qui sont dans le 50 %. D'ailleurs, répondez juste oui ou non. Savez-vous pour qui vous allez voter? 418-971-1021. Je veux faire mon propre petit sondage maison. Mais les gens disent, je sais pour qui je ne voterai pas. C'est intéressant, ça.
C'est intéressant. Puis je vous dirais que la principale raison pourquoi on a ces chiffres-là, c'est parce qu'il y a trop de choix. Tu sais, quand tu arrives dans un resto, puis que tu as le menu, puis là, il y a tellement de choses que tu peux prendre... T'es comme pas sûr.
Hey, moi, je suis tellement poche là-dessus parce qu'il y a toujours 3-4 plats qui me tentent. Et... Là, je ferme mon menu, je le mets sur la table, puis là, je pense que ça va représenter le comportement de plusieurs électeurs. Puis jamais blonde, quand le serveur arrive, choisit. J'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs électeurs qui vont arriver dans l'urne, puis qui vont choisir là.
Oui. Puis il y a eu certaines personnes qui disaient « Ah, ben l'été, dans le fond, est un peu perdu parce que, justement, il n'y a pas eu beaucoup de variations dans les sondages. » Tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon était... plus ou moins absent. On a eu Charles Mignard qui perd du vote francophone. Ça lui fait mal.
Terrible.
Puis la CAQ qui se maintient quand même, chose qui n'est pas mauvaise à tout le moins quand on regarde...
Ça a tellement chuté.
C'est ça, tu sais, on s'entend que ben, le parti n'est pas mort, là, on va se le dire. Puis ils ont quand même réussi aussi à aller chercher une satisfaction envers le gouvernement Fréchette de 40 %. Puis ça, c'est mon collègue qui me disait ça. Bourassa disait que si tu as 40 % de satisfaction... T'es correct. T'sais, c'est comme un
donc,
chiffre un peu
ouais,
abstrait, là, de dire si tu réussis à avoir à peu près un 40 %, ça veut dire que tu fais pas pire une bonne job.
Oui, c'est ça. Bon, la CAQ gouverne depuis 8 ans. Christine Fréchette vient d'arriver. Je pense qu'elle était quand même capable d'insulfer une espèce de petit renouveau. Là. C'est pas pour rien qu'on l'appelle équipe Fréchette qu'on a changé le logo. Là.
J'avais hâte que tu m'en parles. J'avais hâte que tu m'en parles.
Ouais, toi, t'as une stratégie de communication.
Il capote avec ça. Okay? Puis là, tu vas trouver que je t'en étance un peu, mais c'est que. le parti, la CAQ, c'est un parti d'individus. C'est, c'était François Legault, là, c'est Christine Fréchette. Il n'y a pas l'historique du Parti québécois, du PLQ. Fait que de faire une grande, je dirais, affaire de commentaires politiques, justement, par rapport au fait qu'elle a appelé ça équipe Christine Fréchette, je trouve qu'on en met un peu parce que le 40% montre que sa stratégie est bonne. Elle a raison de faire ça. Puis c'était le parti de François Legault. Quand tu regardes l'historique des noms,
oui.
C'était aussi écrit le nom de François Legault. Fait que je comprends qu'on veut effacer la CAQ, mais c'est normal en termes de communication puis de stratégie politique de le faire.
Ben, c'est ça fonctionne. C'est un nom qui a une connotation très négative.
Fait que tu sais, de faire tout un plat avec le fait qu'elle aille changer de logo puis que là, il essaie d'effacer la CAQ, ben écoute, ça fonctionne. Fait que je sais pas quoi vous dire de plus que... Ça fonctionne.
Ouais, exactement. Comment frapper l'imaginaire de l'électeur? Parce qu'il y a un électeur sur deux qui ne sait pas pour qui va voter. Fait que moi, je me dis, celui qui va gagner va être celui qui va réussir à frapper le plus l'imaginaire de ce 50%-là.
Ça va être beaucoup, je pense, le débat puis qu'est-ce qui va se passer sur le terrain. Parce que là, on se bataille un petit peu dans, justement, les médias pour réussir à avoir l'attention. On fait des annonces. On a vu, justement, la semaine passée, Charles Miller qui a essayé de faire des engagements plus économiques. Madame Fréchette, écoute, avant d'arrêter un peu toutes les annonces économiques, c'était à chaque jour là, qu'on faisait des investissements plus gouvernementaux, mais quand même, là, même des fois, plusieurs fois par jour. Fait que si ça fonctionne pas, je vous dirais que tant qu'on va être dans la période estivale des vacances, il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir faire qui va faire changer d'idée. Puis jusqu'à la toute fin, ça va être une bataille qu'il va falloir mener sur le terrain puis s'assurer que nos chefs sont solides. Parce que un des trois, ou ben en tout cas quatre principaux, là, on va inclure Éric Duhaime là-dedans, dès qu'ils vont faire une petite bourde ou un feu pas, ça peut faire changer drastiquement. Puis ça peut revenir aussi, là, on peut remettre la patate dans le tube, mais le débat, là, parce que là, on va en avoir cinq, mais le vrai débat, où est-ce qu'il échange, TVA, Radio-Canada, celui-là va vraiment être décisif parce qu'on va vouloir analyser qui est un bon campaigner. On l'a dit aussi que Mme Fréchette était peut-être moins bonne en débat, mais là, ça nous a quand même surpris quand elle a fait la chefferie avec Bernard Drainville. Ça l'a aidé, je pense. Éric Duhaime, il reste bon, puis c'est un qui est quand même habitué. Paul Saint-Pierre Plamondon, en 2022, a surpris beaucoup de monde par son approche puis sa posture. Puis bien là, Charles Millière, ça va quand même être nouveau pour lui. Même chose pour Ruba Gazal. Fait que j'ai hâte de voir, mais c'est beaucoup ça, puis comment ils vont se positionner entre eux qui va pouvoir influencer, à mon avis, parce que ça reste que c'est ça qui a le plus d'influence.
Mathias, je veux qu'on termine avec la question ou la remarque que tu m'as faite tout à l'heure, Ordonne, en parlant de Paul Saint-Pierre Plamondon versus Christine Fréchette. Posons la question à Lani.
Oui, ben, parce que je me posais la question. On commence à voir un peu les chefs être dans les différents médias puis être de l'avant, puis j'ai comme l'impression... Y a-tu vraiment un chef qui pourrait nous surprendre tant que ça durant cette campagne-là? C'est comme si aucun était capable de vraiment... avoir du guts puis avoir un lead. Fait que j'ai dit à Jeff, pour moi, une des seules choses qui pourrait autant faire bouger l'aiguille dans un sondage pendant un débat, c'est par exemple si un Paul Saint-Pierre Plamondon décide d'être un peu condescendant envers une Christine Fréchette, par exemple, que ça pourrait peut-être un peu moins plaire à l'électorat québécois.
Ça. Est-ce que ça l'avantagerait ou ça le désavantagerait? Je pense que tu réponds un peu à ça. C'est pas une posture chez lui qui paraît bien. On l'a vu des fois être irrité, puis ça reste que c'est pas dans ce personnage-là que les gens ont appris à l'aimer, puis lui ont donné justement la place qu'il y a aujourd'hui dans les sondages. Fait qu'effectivement, il va falloir... Son équipe va sûrement le doser, puis s'assurer que dans les débats, il fasse ressortir le PSPP de 2022 parce que c'est ça qui avait eu le meilleur score. Puis du côté de Mme Fréchette, ça va être s'assurer de justement être pas trop cassette puis de réussir à faire des petites piques bien placées sans non plus être trop hargneuse parce que c'est pas les choses qu'on aime au Québec quand on fait les débats. On veut que ce soit beaucoup plus cordial. Puis de l'autre côté, bien là, en ce moment, ce qu'ils essaient de faire, là, nos chefs, c'est d'être accessibles. Hier, Paul Saint-Pierre était au mini-pot.
Hey, mini-pot avec Carl Carbonnier.
Mais oui, fait que ça, là, il n'y a rien de plus human que ça. Là, puis je veux dire populiste, là, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Oui.
C'est d'aller prendre des clips puis de montrer que ben, lui aussi, il joue au mini-pot. Puis elle aussi, elle va à telle place, justement, au Grand Prix. Elle était à Trois-Rivières, sa circonscription.
Éric Duhaime était dans une affaire de destruction de char à Bellechasse samedi.
Ça. Exact. Ces événements-là, où est-ce qu'ils ont l'air de gens du
peuple. De monsieur tout le monde.
Monsieur, madame tout le monde, ben ça permet de justement montrer qu'ils sont plus accessibles. Puis pour Mme Fréchette, c'était quelque chose qu'elle devait justement travailler. On le voit aussi dans les vidéos qu'elle sort, même au niveau de son habillement. C'est vrai. T'sais, on est plus décontracté, c'était l'été. Il ne faut pas être trop non plus protocolaire là, en termes de...
C'est le Pierre Poilievre en T-shirt blanc et ses lunettes fumées.
Voilà.
C'est aussi simple que ça. Je regardais Pierre Poilievre hier au Saguenay, encore devant la caméra, un petit bec à sa blonde.
Oh,
hein. Et voilà. Faut arrêter de dire que Pierre Poilievre est dur. Donc, petit bec à sa blonde avant du corps.
Oh
oui. La ligne du faux, toujours un plaisir.
Ça fait plaisir.
On se reparle la semaine prochaine avant de passer en pause. Circulation, Mathias?
Oui, ben je reviens sur l'accident un peu plus tôt sur le pont Pierre-Laporte. C'est toujours pas réglé. Donc, à la sortie du pont Pierre-Laporte en direction sud, la voie de droite qui est présentement fermée. Puis ça crée beaucoup, beaucoup de difficultés. Là. Sur Duplessis, on remonte présentement sur la 40. C'est du pare-choc à pare-choc. Là. C'est un parking. Même chose sur Henri IV. Ça remonte... Ça remonte passé Charest. Dans pas long, on va se rendre à Wilfrid Hamel actuellement. Là, encore une fois, un parking. Là, donc, très, très difficile pour accéder au pont Pierre-Laporte en direction sud pour le moment. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Après la pause, on parle de cette hausse du vandalisme dans les municipalités. Puis je vous pose la question suivante. Réfléchissez. Revenez avec des réponses au 418-971-1021. On fait quoi avec ces jeunes-là qui font du vandalisme? On fait quoi avec les parents de ces jeunes-là? Comment qu'on fait pour que nos bons jeunes prennent plus de place? On se parle de tout ça au retour de la pause à l'émission d'En Jase sur Boulevard 101. Jusqu'à... Midi 59, émission d'En Jase du mardi 11 août. Je vous répète, jeudi le 20 août, ouais, j'ai donc bien hâte. Le match Boulevard au Capital de Québec. Allez chercher vos billets au capital.ca. Capitale de Québec.ca, devrais-je dire. Le gin est à 50%. Tous les animateurs de Boulevard, on y sera. Ainsi que l'escouade de Boulevard. Mathias, c'est encore des problèmes dans la circulation.
Oui, bien, l'accident à la sortie du pont Pierre-Laporte en direction sud, c'est toujours pas réglé. La voie de droite qui est actuellement fermée, puis ça crée un énorme bouchon là, au moment actuel. Henri IV, direction sud, c'est un parking à partir de Wilfrid Hamel en direction sud pour prendre le pont Pierre-Laporte. Sur Duplessis, c'est au ralenti pare-choc à partir de la 40. Donc, beaucoup d'attentes dans le secteur. Si jamais vous voulez trouver le moyen de passer par le pont de Québec, ça semble plutôt bien aller pour l'instant, le pont de Québec. Donc, quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
Mathias, qu'est-ce qu'il y a à suivre dans l'actualité à part le fait que, hey, on va l'avoir, notre troisième lien?
Ouais, ben, je commence par ça, justement. Ah, va être dans! 21 entreprises basées, entre autres, aux États-Unis, en Corée du Sud et en Chine, ont levé la main à la suite de l'appel international lancé par le gouvernement Fréchette il y a de cela quelques mois pour un troisième lien à l'est reliant Québec et Lévis. Là, enthousiasmez-vous pas trop. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un troisième lien. Ce n'est pas un appel d'offres formel, seulement un appel d'intérêt international. Au même titre qu'on en avait fait un pour le troisième lien central, il y a de ça quelques années, là, en 2024. C'était 23 entreprises qui avaient répondu présentes à ce moment-là. Donc, on a sensiblement le même nombre, malgré le fait qu'on l'aille déplacer à l'est. Ce qu'on nous dit, c'est que le gouvernement se laisse jusqu'à la fin août pour analyser les différentes propositions reçues, puis qu'on aurait une idée du coût et du projet un peu plus en novembre.
Après les élections.
Après les élections.
Ah! Oh.
Un technicien spécialisé en éducation spécialisée de la polyvalente de Charlebourg a été arrêté pour possession de pornographie juvénile. Des documents judiciaires qui soupçonnent Pierre Gagné, un homme de 58 ans, d'avoir transmis ou distribué du matériel d'exploitation pédosexuelle. Les faits en question remontent à novembre 2025. Il a depuis été congédié du centre de services scolaires où il travaillait. Il a été remis en libération sous condition, notamment de ne pas se trouver en présence de mineurs ou d'utiliser Internet. Et je termine avec le gouvernement du Québec qui accorde finalement un délai aux garderies en milieu familial. À partir du 1er septembre, le gouvernement qui allait demander aux garderies en milieu familial d'avoir une reconnaissance gouvernementale, sans quoi elles devront baisser leur nombre d'enfants de 6 à 2 ou tout simplement fermer. Cette nouvelle réglementation-là menaçait 1100 garderies qui n'ont toujours pas obtenu leur reconnaissance gouvernementale. Ce qu'on a indiqué aujourd'hui, c'est que le gouvernement caquiste allait permettre aux garderies qui ont déposé leur demande de reconnaissance d'ici le 31 août, de rester ouvert à une seule condition, de fournir une déclaration sous serment que leur casier judiciaire est toujours vide, en attendant justement les certifications, parce que ce qu'on nous disait, c'était des certifications par rapport au casier judiciaire qui prenaient beaucoup de temps dans ces dossiers-là pour le moment.
Très, 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 très bonne nouvelle. Et on souhaite justement que ces garderies-là soient accréditées pour que les enfants puissent demeurer. Parlant d'enfants, parlant d'adolescents, des excréments répandus dans les toilettes, des modules de jeux brisés, un terrain de tennis vandalisé, à peine les réparations terminées, de nombreux incidents de vandalisme qui sont faits par les adolescents envahissent nos villes. Dans Le Soleil, aujourd'hui, on a justement le récit à Sainte-Brigitte-de-Laval. On vient de faire des nouveaux terrains de pickleball, puis quand les jeunes s'en vont là avec leur trottinette électrique, ils font des chires là, pour se parler là, entre banques québécois, puis ils vandalisent, ils scrapent carrément les terrains. À Shannon, c'est des toilettes dans un chalet public qui sont complètement endommagées. Coût de la réparation, 25 000 $. Puis là, ce qui est également Mathieu Thomasin, que vous connaissez comme chroniqueur automobile ici à Boulevard 101, qui est maire de Sainte-Brigitte-de-Laval, explique, c'est que hey, moi, là, si j'ai à payer 130 000 de dépenses additionnelles parce qu'il y a eu du vandalisme, bien, il faut que j'augmente de 1 % le compte de taxes de mes citoyens. On fait quoi avec ces jeunes-là? Mathias, il y a énormément de commentaires au bas de cet article de Philippe Chabot dans Le Soleil.
Oui, puis n'hésitez pas à nous écrire, vous aussi, vos solutions ou ce que vous feriez avec tout ça au 88-971-1021. Mais c'est que le maire, justement, disait « Hey, on va diffuser des images. » Et on envisage diffuser des images de, ouais, de ces vandalismes-là pour qu'on voie c'est qui ils ont commis.
Ben oui, parce que moi, si je suis un parent dans cette municipalité-là, je vais aller voir les images. Puis si c'est mon petit loup qui a fait ce vandalisme-là, ben il va avoir des conséquences.
Puis il y a beaucoup de personnes qui sont pour justement une diffusion publique de ces mêmes images. On a notamment Linda qui écrit « Ce sont des adolescents, donc les parents sont responsables. Alors diffusez les vidéos pour que les jeunes soient identifiés. » Conséquence, les parents n'auront qu'à défrayer des coûts de réparation. C'est une méthode dure, mais pour certains, c'est la seule méthode pour comprendre le portefeuille et les coûts que les dégâts peuvent engendrer.
C'est-tu quoi? Je suis d'accord avec Linda, puis allez-y, parlez-nous au 418-971-101 pour deux raisons. La première chose, c'est que faut absolument impliquer le parent parce qu'il faut que le parent prenne la situation en main. Ma crainte que j'ai, c'est qu'il y en a dans ces vandales-là que le parent va comme faire « bof ».
C'est pas grave.
Pas grave.
Que jeunesse se fasse.
Exactement. C'est une erreur de jeunesse. Pas grave. Arrêtez de me casser les oreilles avec ça. Faites la réparation. Puis, that's it. Fait qu'on implique le parent dans le processus. Moi, je suis pour ça. Le parent devrait être impliqué, que ce soit par un remboursement. On devrait, je crois, impliquer l'adolescent par des travaux communautaires. Donc, c'est-à-dire faire la réparation, à tout le moins contribuer à la réparation, au nettoyage. Puis, faut que le parent soit embarqué là-dedans. Puis, je te dirais que faut être en mesure d'évaluer la capacité parentale. Puis, sinon, donner des formations sur comment gérer un adolescent. Là, parce que le phénomène des enfants rois, ben se retrouve peut-être dans ces actes de vandalisme-là. Je pousse-tu trop loin?
Non, mais je pense que tu as quand même une piste de solution intéressante. Puis ça revenait aussi dans les commentaires de dire, hey, les jeunes qui ont fait ces dégâts-là, ben faisons en sorte qu'ils donnent des heures pour réparer ces dégâts-là. Dans l'article du Soleil, on voyait une salle de bain complètement ravagée, une conserve qui avait été vidée. C'est dégueulasse. Les images sont dégueulasses. Qu'on trouve le jeune qui a fait ça, puis qu'on lui dit hey, « Regarde, la marde que t'as faite dans cette salle de bain-là, viens-t'en puis nettoie-la. » Ça se peut qu'ils y pensent à deux fois avant de recommencer.
Par texto, présentement, on a ça. Ils sont pognes, ces jeunes-là, ils devraient être forcés d'aller nettoyer. Il y a Marianne qui amène une bonne piste de solution en disant « Pourquoi les jeunes se fâchent puis se défoulent comme ça? » Puis c'est une bonne question, tu sais. Est-ce que nos jeunes bougent assez? On parle du temps d'écran énormément. Est-ce que nos jeunes ont cette période d'éducation physique à l'école? Est-ce qu'on devrait avoir des salles de défoulement? T'sais, moi, Oli est allé là avec ses amis pour sa fête, le fils Aval, là. Je me souviens comment ça s'appelle, là, l'organisation. Là. Tu rentres dans une salle, puis tu scrapes tout.
Tu détruis tout, ouais. Peut-être. Puis en même temps, le fait de pointer du doigt l'activité physique et tout, je trouve ça quand même intéressant. Tu regardes au secondaire, par exemple, si t'es pas dans un programme spécial ou dans un sport-études, tu te ramasses avec quoi? 1h30, 1h45 de dîner, là? Oui. Dans certaines écoles secondaires.
Ben exactement. Hey, oublie ça, c'est même trop long.
Hey, t'as-tu rien à faire pendant ce temps-là?
Ben vois-tu, à Charlebourg, il y avait énormément de vandalisme qui se faisaient sur les terrains de la polyvalente. Mais les terrains de la polyvalente sont partagés avec l'arpitrome de Charlebourg qui appartient à la ville, le patro Charlebourg, puis le cégep Limoilou, Campus Charlebourg et au Patro Charlebourg, on a tout simplement décidé, tant qu'à ce qu'ils fassent du vandalisme dans notre hall d'accueil, d'ouvrir un local avec des intervenants qui sont là et des animateurs. Ben, ils sont peut-être 150, 200 par midi. Parce qu'ils cherchaient une place où aller.
Ah, oh, OK, ça pogne à ce point-là.
Ça pogne à ce point-là. Ils vont dans le gym, ils jouent au basket, font plein d'affaires. Puis ça fait en sorte que, ben, au lieu justement d'être en train de casser une vitre ou d'essayer d'arracher une porte, ben, ils sont là. Ils sont encadrés d'intervenants. Puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de prévention qui se fait aussi parce que veut pas quand. Là, des fois, il y en a qui vont se confier à l'intervenant. Hey, je vis de l'intimidation. Hey, j'ai telle affaire. Hey, à la maison, il se passe telle chose. Et ça permet justement de régler certaines problématiques qui, des fois, peuvent justement amener des comportements déficients. Fait que tu me fais penser à ça. Faudrait vraiment qu'il y ait plus de programmes comme ça en prévention.
Ouais, trouver une solution pour les occuper, là, au moins. Une autre solution qui revient, c'est des caméras. Du côté de Lévis, la semaine dernière, on avait évoqué la possibilité de mettre davantage de caméras dans les différents milieux publics. Tu vois, j'aille pas l'idée. Dans le sens, moi, puis ça va, tu sais, l'idée d'une caméra, c'est pas nécessairement d'absolument retrouver c'est qui a fait ça, mais le simple fait de savoir, puis de voir les caméras,
ben oui.
Puis que ce soit affiché qu'il y ait des caméras un peu partout, ben, ça enlève pas mal le goût de faire ces mêmes actes de vandalisme.
C'est clair, tu sais, la fameuse caméra, le souriez, vous êtes filmé. Ouais. Je te prends un exemple, je conserve trop décoqué. Ben, tous les matchs sont filmés. Des fois, ça tente peut-être moins quelqu'un de faire un geste qu'il va regretter. Hey, on parle de grosses problématiques à Shannon. Les enfants de 10 à 12 ans dehors à faire des mauvais coups à 23h30. Les parents sont où? En effet, il y a une responsabilité parentale derrière ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut savoir nos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont où? Pourquoi ils sortent à cette heure-là? T'es laisses-tu sortir à cette heure-là à l'âge qu'ils ont? T'as pas le choix. Là. Moi, je vais donner un exemple. Edouard va faire un party chez nous samedi dans deux semaines. On sera pas là, nous, à la maison. Mais il y a le protocole de consigne qui vient avec. Là. Puis je peux te jurer que si le protocole de consigne n'est pas...
C'est pas bien réel. En méchant bout.
Ben, c'est ça. Puis il sait, puis il va s'organiser. Puis encore hier, dans le char, il me dit « Inquiète-toi pas, papa, m'a tout ramassé le soir même. Comme ça, si t'arrives plus de bonne heure le matin, là, tu seras pas pogné dans cochonneries. »
Ben, d'encore, tu sais, de s'assurer que tu saches ce que fait ton enfant, parce que ça revient par texto aussi de dire « Ouais, mais les enfants font quoi dehors à cette heure-là? » Tu sais, dans ces actes de vandalisme-là, il y en a combien, selon toi, que c'est des jeunes qui partent puis que tes parents ne savent presque pas qu'ils sont partis?
Exactement.
Là,
ben non, c'est comme, ça le problème.
Vas-y, fais ce que tu veux, reviens à l'heure que tu veux, il n'y a pas de stress, que tu t'informes pas. Mais ces enfants-là, ils finissent par faire un peu ce que ça leur tente.
Ben exactement, c'est le principe de l'enfant roi. En terminant, moi, j'ai pensé à ça aussi, Mathias, puis je pense que les jeunes qui tiennent à leur milieu de vie, les jeunes qui tiennent à ce que ça soit propre puis ça soit beau, va falloir aussi leur montrer comment interagir. Je vais te donner encore un exemple à Charlebourg. On avait un fichu de beau terrain de basketball extérieur. Ben, s'il y avait un jeune qui venait faire le cave puis scraper un peu l'asphalte ou un panier, là, hey, je vais te dire une affaire, là. Les 40-50 qui l'utilisaient régulièrement, là, peux-tu te dire une affaire qui s'organisait pour qu'il décampe, le jeune?
Ah, et qu'il ça, vienne c'est pas. Sûr.
Fait que je ne sais pas comment, puis je lance ça en l'air comme ça. Sûrement que ça passe également par des organismes, des travailleurs de rue, je les salue, les maisons des jeunes qui font un excellent travail également. Mon Gabou, le plus jeune à Val, va à la maison des jeunes, puis honnêtement, sont vraiment, mais vraiment bien organisés pour sensibiliser. Mais ça va passer par là, par de la présence sur le terrain qui va permettre aussi aux jeunes qui, lui, là, veut pas que la toilette de son chalet municipal soit scrappée. Veut pas que le terrain de pickleball ait l'air d'un autodrome de trottinette. Puis veut que son milieu de vie reste sain et positif. Va falloir s'organiser pour qu'eux autres aussi prennent la parole. Puis eux autres aussi disent à la gang de cabochons qui sont en train de tout scrapper. « Hey, c'est mes affaires que t'es en train de scrapper. Décampe. » Donc, va falloir trouver un moyen de ça également. Mais je suis convaincu que ça passe par une responsabilité parentale. Puis oui, moi, je suis pour la diffusion des vidéos parce que si jamais je vois un de mes jeunes sur une vidéo comme ça...
Il va s'en faire parler.
Oh, il s'en fera pas juste parler. Tu peux être sûr qu'il va avoir des conséquences très grandes. Circulation avant qu'on passe à une entrevue après la pause avec Patrick Paquette, ancien chef de Priorité Québec, qui se présente pour le Parti conservateur du Québec au provincial dans la circonscription de Vanier-les-Rivières.
L'accident à la sortie du pont Pierre-Laporte en direction sud s'est réglé, mais le trafic n'est pas résorbé pour autant. Sur Henri IV, ça remonte jusqu'à Wilfrid Hamel pour le moment, que c'est au ralenti sur Duplessis. Ça remonte encore une fois jusqu'à l'autoroute 40. Normalement, au cours des prochaines dizaines de minutes, ça devrait s'améliorer, mais pour l'instant, ça reste encore très difficile.
Patrick Paquette vient s'installer en studio après la pause. Continuez d'interagir au 418-971-1021. Toujours intéressant de vous lire sur nos sujets qu'on partage avec vous. 13h17, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission d'En Jase, le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey qui suit à 14h, Marceau le soir à 18h, et je vous rappelle notre grille horaire, Marceau le matin de 6h à 10h, et également le point de max de 10h à midi. Ah, on est en train de se rappeler des bons vieux souvenirs d'hôtels de ville avec notre prochaine invitée. Coudon, je serai jamais capable de m'en débarrasser. Il va toujours venir parler de politique ici en entrevue. Patrick Paquette, candidat pour Vanier-les-Rivières pour le Parti conservateur du Québec. Patrick, comment vas-tu?
Ça va bien. Bon après-midi, Jean-François.
Bon après-midi.
Moi aussi, je suis très heureux de te revoir. Je suis content qu'on se compte des petites anecdotes avec ton collègue que je connais plus ou moins. Mais
exactement.
Mais c'est le fun, oui. Pareil. On prend.
Ben, on se remémorait le moment où, à l'hôtel de ville, il y avait 4 partis d'opposition, puis à quel point le maire Marchand était challengé de tous bords. Tout côté, tu me disais justement, hey, on va se le dire, Claude Villeneuve faisait un bon job comme chef de l'opposition, vous à Priorité Québec également, puis Jack Smith avait du mordant, pas à peu près. Je m'ennuie de tout ça présentement en politique municipale. Je trouve que le maire Marchand, il a trop l'allée simple. Là.
C'est sûr que quand Jackie a nous annoncé qu'elle voulait monter les plaques de 1700$ d'une claque, ça a fait... Je vais vous dire, messieurs, ça a frappé. Même nous, des bureaux, on n'était pas beaucoup, pas un gros budget, puis on disait, voyons, elle n'a pas dit ça, là, c'est pas vrai. Là.
Ça me rappelle l'imaginaire.
Jackie, s'il vous plaît, présente-toi contre moi à Vanier-des-Rivières. Pour...
Ah, exactement.
Ils cherchent un candidat dans voyons, c'est Québec solidaire.
Québec solidaire.
Québec solidaire, ils n'ont pas de candidat dans Vanier-des-Rivières. Il me semble que Jackie, elle serait bonne.
Ah ouais, tu
sais. Ben oui, elle serait bonne, Jackie.
Alors,
je réclame le retour de Jackie Smith.
Yes. Pourquoi le saut en politique provinciale?
Le défi est vraiment intéressant.
Oui, dans le sens?
Politique municipale, on s'entend, là. Écoute, je devais pas faire partie de la dernière campagne électorale. Là. Je suis comme arrivé pour dépanner en sauveteur. Puis, tu sais...
T'es embarqué dans un bateau qui coulait déjà.
Ouais,
c'est ça. Hein.
Mais,
Leadership Québec.
Tu sais, je veux pas m'en aller vraiment là, bon, mais oui. Tu sais, j'avais quand même mon collègue Sylvain Malençon. On avait toute l'équipe d'équipe Priorité Québec. On l'avait fusionné avec eux. Puis, tu sais, en politique, on va se le dire, c'est important de le jouer en équipe. Si t'as joué pas en équipe, là... Tes propositions avancent jamais. Mm-hmm. Il faut la jouer en équipe et il faut être solidaire. Mais où ce que je veux en venir, c'est que après l'élection municipale, j'avais besoin d'un break. Puis à un moment donné, je me dis, écoute, la prochaine élection municipale en 2029, là, on oublie ça, là. Je vais avoir 60. J'ai 56. Tu sais, je regarde mon collègue Steven Smalençon. Tu sais, c'est une machine d'avoir fait de la politique jusqu'à 66 ans. Pareil, là, tu sais, faut que tu te gardes en forme.
Ah, tu sais, je vais dire une affaire. Tu sais, les politiciens, moi, je le dis toujours, vous avez tout mon respect parce que à l'énergie que vous mettez, au temps que vous investissez, bravo de le faire.
Merci. Puis les bons politiciens, tu le vois tout de suite, sont passionnés. Tu le sais, Jean-François,
oui.
Moi, j'étais un passionné. Là, je me disais, là, j'ai fait mon break. Ça m'a permis de voyager un petit peu. J'ai été arrêté 7-8 mois. Puis le défi, il est vraiment extraordinaire. T'sais, au PCQ, ça parle mon langage. Moi, j'ai toujours été de l'avant dans tous les partis politiques. J'ai toujours été avec mes valeurs, mes convictions. Ça, c'est hyper important.
Puis qu'est-ce qui te rejoint au PCQ?
Ah, c'est vraiment les finances publiques.
Les finances publiques.
Il faut couper les finances publiques. Écoutez, là, on est passé quand même de 67 000 employés des ETC, qu'on faisait des temps complets parce qu'il y a du temps partiel, à tout près de 80 000. Là, on vient de redescendre des alentours de 79 000. Mais il y a du ménage à faire là. Écoute, il y a beaucoup de belles technologies qui s'en viennent. L'intelligence artificielle, on est vraiment en retard au Québec. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire là. Moi, ça me passionne. Et je peux donner un bon coup de main à Éric à ce niveau-là, puis à mes collègues. Au niveau des dossiers municipaux, même chose. Là, on m'a mis porte-parole pour l'habitation. Tu sais qu'en habitation, il y a un volet municipal. Il y a un volet municipal, on ne se le cachera pas.
Délivrer des permis plus rapidement.
Ben, l'Union des municipalités du Québec, ils réclament aussi des sommes au gouvernement. Ouais. Mais il y a une partie gouvernementale aussi. Même, on pourrait même quasiment l'adresser. On pourrait même dire qu'il y a une partie jusqu'au gouvernement fédéral. Mais à ce niveau-là, je pense que je peux donner un bon coup de main autant à M. Marchand. Mm-hmm. M. Marchand, je vais être son meilleur allié dans le dossier de l'habitation, là, de loin, là, mais je ne serai pas son meilleur allié dans le projet de tramway.
Les villes là, qui, justement, réclament énormément d'argent pour les infrastructures désuètes, est-ce qu'elles ont une responsabilité à l'effet qu'elles aussi n'ont pas assez pris soin de leur infrastructure?
Clairement. Jean-François, clairement. Mais non. Écoute, avant la fusion de la Ville de Québec... Moi, je me rappelle, c'était Jean-Paul Lallier qui avait fait les fusions. Puis j'arrivais, moi, j'étais sur mon banc d'école en 2005, puis Mme Boucher... Madame Boucher venait de prendre le pouvoir, malheureusement, avant son décès. Puis là, quand elle a pris ça, on savait que la ville de Charlebourg, c'était M. Mercier qui était maire, oui, à l'époque. Tu sais, écoute, il se faisait réélire année après année, mais je veux dire, il n'investissait pas dans ses infrastructures.
Ouais, Charlebourg, Beauport, ça faisait dur.
Charlebourg, il y a eu une petite surtaxe. Mais moi, je dis aux gens de Charlebourg, écoutez, chialez pas, parce que nous, quand on l'a fusionné à Québec, parce que moi, je vis dans Neuchâtel, quand on l'a fusionné, nous, en 71, on l'a payé la facture. Mais là, les gens de Charlebourg, ils ont été des années sans la payer, comme les gens de Val-Bélair, comme les gens de Beauport, effectivement. Tu sais, c'est un tout, mais effectivement, les villes ont une responsabilité, mais le gouvernement provincial aussi a une responsabilité, mais le sait, mais. Ça, il faut le donner, c'est que depuis les 10 dernières années, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, ont fait un travail extraordinaire parce qu'il n'y a jamais eu, avec la taxe d'assises là, qui est revenue aux villes, il n'y a jamais eu autant de sommes qui a été données justement aux municipalités pour pouvoir investir dans les infrastructures, mais même dans les projets de gestion de l'eau aussi. Là.
Non, c'est clair. Clairement. Je suis clairement d'accord.
À un moment donné, il
n'y
en a plus d'argent provincial non plus.
Mais ben non, c'est ça.
Pas faire de miracle.
Faut que tout le monde prenne, faut que tout le monde prenne ses responsabilités.
Pour ça, quel discours du PCQ de changer le système. Le système ne fonctionne plus. Mm-hmm. Puis nous, on est capable d'oser puis de dire tout fort, justement, écoutez, on est capable de faire mieux avec moins. Puis là, les gens vont dire, allez-vous couper des services? On n'a pas de services. Essayez de vous faire soigner dans les hôpitaux, vous. Essayez de vous faire servir dans n'importe quel domaine. On va prendre avec les domaines du provincial parce que mon collègue me faisait rire ce matin. Il dit, Patrick, tu vas avoir bien moins d'ouvrages au provincial. Il dit, nous autres, on faisait tout dans les villes. Non, mais en blague, là, on s'occupe de tout. Mais on s'entend qu'on a quand même l'éducation, la santé, puis on pourra en nommer bien d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se concentrer là-dessus, puis il faut être capable de redonner le service que le citoyen a le droit. Parce qu'en ce moment, on est les plus taxés, on est les plus imposés. Puis quand on essaye de se faire des services, surtout au niveau de la santé, des fois, c'est trois ans d'attente. Moi, je pense que c'est inacceptable.
Oui, en effet, on a interviewé le chef Éric Duhaime vendredi qui nous parlait justement du plan là, de l'équilibre public-privé en santé. Là. Un plan, moi, que je partage. C'est une idéologie que je partage à 100%. Là. Il y a
je
pas
dis,
de
là, pour
doute
les,
là-dessus.
Pour les auditeurs de nous, qui nous écoutent, là, qui prennent 2 minutes pour aller écouter la petite vidéo, elle ne dure même pas 10 minutes, de Karim. J'ai toujours de la misère à le prononcer.
Karim Elayoubi.
Elayoubi.
J'ai appris à le prononcer, moi, c'est pour ça.
Sérieusement, là, Jean-François, c'est tellement simpliste, puis c'est tellement bien divulgué qu'en 10 minutes, tu comprends tout en 10 minutes, puis tu vois que tu n'as pas besoin de transformer, de faire une si grande transformation que ça du système de santé pour être capable de donner les bons services à nos citoyens et citoyennes. Si tout le monde écoute cette vidéo-là, tout le monde vote pour nous demain matin.
Je veux pas te donner d'idée, mais est-ce que tu vas jouer la carte du candidat local, compte tenu que la candidate de la CAQ, Françoise Favron-Fortin, vient de l'extérieur?
Oui. Moi, c'était très important. Je l'avais dit à Éric. J'ai pas essayé d'avoir un autre comté qui était plus favorable au PCQ. On a une belle lutte à trois, nous, dans Vanier-les-Rivières.
Bien, vraiment, c'est jusqu'à l'aide Québec 125. J'ai devant moi 27 % PQ, 26 PCQ, 25 CAQ. Fait que c'est égalité les trois.
C'est égalité les trois. On a une belle course dans Vanier-les-Rivières. Moi, j'ai été élu à trois reprises, dont dans la partielle de 2018. C'était important pour moi de me présenter chez nous. Ma base est là. Tu sais, j'ai des gens que... Je vous le cacherai pas, je vous dis pas que. J'essaie pas de vous dire que c'est 10 000 votes, là. Mais il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, puis des gens ceux qui ont appris ma candidature ce matin, qui n'auraient pas nécessairement voté pour Éric Duhaime, pour le PCQ, puis qui vont voter pour moi parce que c'est moi qui ai le candidat. Puis ils savent que je vais bien les représenter, puis que je vais me battre pour eux. Ça, c'est vraiment. Puis le candidat peut faire la différence au provincial, c'est pas beaucoup, hein. C'est 2 à 5 Jean-François. Si le 4 ou le 5 % peut nous mettre en avant, puis on peut être capable de ramasser nos 12 députés pour participer aux études de crédit, parce qu'on doit participer aux études de crédit lors du prochain 4 ans. C'est le même que le PCQ va pouvoir être au pouvoir peut-être dans le prochain mandat de 2030.
Et dans Vanier, les rivières en particulier, c'est quoi des enjeux locaux que vous voulez faire avancer?
C'est vraiment le pont d'étagement et la troisième voie sur Robert Bourassa, au moins dans la première étape jusqu'à Chauveau, pour être capable d'avoir accès au quartier résidentiel, parce que là, en ce moment, l'intersection de Le Bourgneuf puis Robert Bourassa, c'est... Si c'est pas... Moi, je suis convaincu que c'est l'intersection la plus achalandée de la province de Québec, là. Même à Montréal, on bat même plus ça, là. C'est 74 000 voitures par jour, là. On descend les galeries des capitales, puis là, un tramway, là, on ne le verra pas ça avant 20 ans, un tramway dans ce coin-là. Il faut avoir un métrobus, avoir une voie réservée 2 heures le matin, 2 heures le soir, pas 7 jours sur 7, puis 24 heures sur 24. Ça nous prend ça, puis ça prend un pont de détachement pour être capable de libérer la circulation. On a les gens de Saint-Émile, les gens de Loretteville, les gens de Val-Ballard, tout le monde descend d'en haut, ça descend tout par là.
Vas-tu nous faire un petit scandale sur l'avortement, un de ces quatre?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. Hey, ça, c'est réglé, ça. Hey, sérieusement. Hey, sérieux, c'est quel journaliste qui a fait ça, Jean-François, pour de vrai? Là,
c'est Dominique Dumas qui l'avait quand même écrit là, sur ses réseaux sociaux.
Oui, il l'avait écrit, mais écoute, on est en 2026, puis sérieusement, c'est la première fois que j'entendais ça au Parti conservateur du Québec. Puis je pense qu'Éric a très bien fait ça. Hein. Il a mis le... Mm-hmm. Tu sais, dans des dossiers comme ça, tu mets le couvercle à sa marmite, puis t'arrêtes.
Oh, je l'ai félicité vendredi en onde. J'ai dit bravo, Éric Duhaime. Vous avez immédiatement
parfait,
mis fin
tout de suite, exactement.
Au dilemme. Ce que, à mon avis, le Parti conservateur du Canada n'est jamais capable de faire à cause des gens dans l'ouest du pays. Le chef n'est jamais capable de s'affirmer comme Éric Duhaime a fait. Je trouve ça dommage.
Ça a été pire avant Pierre Poilievre, on sait le cachot.
Ben oui.
Hey, ça, c'était pas drôle, cet épisode-là, sérieusement. T'es pas capable de mettre le couvert sur la marmite. Hein, on est rendu en 2026.
Non,
on va reculer dans le temps pour enlever le droit des femmes. C'est quoi cette affaire-là?
Non, mais je suis très content de t'entendre dire ça parce qu'on est vraiment rendu ailleurs.
Oui.
En terminant l'entrevue, c'est une lutte à trois dans Vanier-les-Rivières.
Oui, une candidate de Montréal.
Oui.
On va voter pour un candidat local, s'il vous plaît.
Une des raisons pourquoi les gens voteraient pour toi, sinon?
Je passe mon franc-parler. Mon expérience au municipal va me servir au provincial. Je suis quelqu'un qui est bon dans les chiffres. Je viens du côté entrepreneurial, on ne se le cachera pas. C'est pour ça que je vous agaçais en disant que j'étais de centre-gauche. T'en souviens, Jean-François?
Oui.
Mais parce que je dis, on ne coupe pas dans les programmes, on va rien que les revoir et on va mieux les administrer. Mais je pense que j'étais un bon administrateur. Je l'ai prouvé dans tout au long de ma carrière de 30 ans comme entrepreneur. Puis j'ai beaucoup d'expérience en politique, oui, municipale, mais mon expérience va me servir au provincial. Puis les gens, ceux qui me connaissent vraiment dans mon district, dans mon comté, on va dire dans mon district à l'époque, ils savent que j'étais un bagarreur. Je me bats tout le temps. Puis tout ce que j'ai voulu aller chercher pour mon district pendant que j'étais élu, je l'ai toujours reçu. J'ai toujours été capable de placer mes projets dans un PTI, un PQU, un PDI, appelez-le comme vous voulez. Mais il va falloir placer des sommes, puis il va falloir aller... si on veut qu'un jour, on aille notre pont à étagement, notre troisième voie, qu'on aille un peu plus de logement, puis qu'on puisse couper des dépenses publiques, il va falloir avoir, on va dire, Jean-François, la balance du pouvoir. Puis savez-vous quoi? Les électeurs de la Ville de Québec ont ce pouvoir-là, imaginez. On a ce pouvoir-là sur la gang de Montréal qui n'arrête pas de décider pour nous. On est capable d'avoir un gouvernement minoritaire puis d'avoir la balance de pouvoir. Puis c'est qui va avoir la balance de pouvoir? Ça va être les gens de la Rive-Sud de Québec, les gens de Québec puis les gens de la Beauce.
Tu sais, Moses là, à Montréal, ils veulent qu'on donne 400 millions pour un toit sur le stade de tennis, Mathias. Ouais,
mais
ça n'a pas d'allure. Hey, je vais mettre un peu de chicane,
mais moi. Mais pas de troisième lien.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais pas de troisième lien.
Pas de troisième lien, puis ils voulaient pas de centre Vidéotron.
Mais être à moi 12 millions, il y a pas
de problème. Gérer par Montréal. Hey, je vais mettre un petit peu de chicane. Tu penses quoi jusqu'à date du maire Marchand, sa première année de réélection?
Je le trouve tranquille.
Tu le trouves tranquille?
Je le trouve zen, moi.
Ben, il voyait zen. As-tu vu son voyage en Italie?
Il voyage beaucoup. Hey! Il est en amour.
T'es en amour?
Oui.
C'est vrai qu'un homme en amour, ça devient plus zen.
Je le trouve zen. Il suit son plan. On peut pas y enlever. Ça, on peut pas y enlever.
Ça, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord.
Ça, on peut pas y enlever.
Bruno Marchand.
Il suit son plan. Il est capable d'affronter les médias.
Quand on l'a élu, on savait à quoi s'attendre. Oui. Puis il nous livre exactement ce qui s'est.
Il suit son plan. Pour
s'attendre.
Ça, dis-moi demain matin. Bruno... Tu sais, je m'en ai dit, Bruno, M. Marchand, il connaît mon opinion sur le projet de tramway. Puis je ne changerai pas d'opinion. Puis on l'a défendu depuis 2017 qu'on a ce discours-là. Puis on a toujours dit qu'on était non négociable, non achetable. Mais les autres gens, les autres priorités de la Ville de Québec, je les connais. Mm-hmm. Puis s'ils me demandent mon aide, je vais être là. Puis s'il faut que je le représente dans l'étude des crédits ou dans les futurs projets de loi ou de monter des sommes dans certains... Dans certaines enveloppes du provincial qui peut justement s'adresser à la Ville de Québec puis mieux desservir nos citoyens, je vais le faire.
L'opposition, fais-tu bien sa job?
En ce moment?
Oui. Respect citoyen, Stéphane Lachance.
Ah, tu parlais du provincial. Est-ce
Non. Jésus, je vais finir en mettant un peu de chicane au municipal.
Jean-François, je suis rendu au provincial.
J'ai pas posé la bonne question, Mathias.
J'étais convaincu que je suis rendu au provincial, mais là, de dire non. La chicane partait.
Hey, Patrick Paquette, bonne chance dans ta campagne électorale, dans Vanier-les-Rivières. Merci de t'impliquer comme ça en politique. Moi, je l'ai dit, j'ai énormément de respect pour les politiciens. Puis c'est pour ça que, peu importe le parti politique, la personne qui se présente à mon micro, je vais toujours la traiter de façon respectueuse. Je vais poser bonnes questions, mais de façon respectueuse. Je crois que c'est comme ça qu'une démocratie avance.
Tu l'as toujours fait. Merci, Jean-François.
Ça fait plaisir.
Merci de l'invitation. Puis j'ai hâte de voir vos auditeurs sur le terrain. Il reste quand même pratiquement 2 mois. Je vais aller à votre rencontre, puis on va se rencontrer sur le terrain.
Il y en a plusieurs qui ont texté qui sont très contents de te voir la bête dans Vanier-les-Rivières.
Merci, merveilleux.
Cool. On fait une courte pause et par la suite, on parle de cette grève des ingénieurs qui finit pas, Mathias. Ça fait en sorte qu'à Lévis, On a des problèmes de gestion d'eau. On a un moratoire sur la construction. On n'est pas capable d'avancer les travaux, justement, concernant l'usine d'eau. On va en parler avec notre spécialiste en relations syndicales, Marc Ranger. Mais avant, Mathias, il y a encore des problèmes dans la circulation.
Ouais, juste vous rappeler rapidement que l'accès au pont Pierre-Laporte en direction sud, en raison d'un accident qui a eu lieu un peu plus tôt, c'est très difficile. Toutes les voies sont réouvertes. C'est réglé pour l'accident, sauf que sur Henri IV, ça remonte après Charest pour le moment pour l'accès au pont Pierre-Laporte en direction sud. C'est au rouge. Duplessis, ça remonte jusqu'à 4 Bourgeois environ pour le moment. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
Marc Ranger, après cette courte pause à Boulevard 102, en émission dans Jazz. Dans Jazz jusqu'à... Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102, c'est l'émission dans Jazz. Il est présentement 13h38, minutes, mardi 11 août. Météo, je vous le rappelle, possibilité d'averse ou risque d'orage en fin d'après-midi. C'est 30% de probabilité, par exemple, on va peut-être s'en sortir. 12 degrés cette nuit. Demain, 23 degrés avec toujours ce 30% de possibilité d'averse ou d'orage en après-midi. Jeudi, ce sera des averses 20 degrés et vendredi, alternance soleil et nuages à 21 degrés. De la nouveauté à la circulation, Mathias?
Bien, juste vous rappeler rapidement l'accès au pont Pierre-Laporte, direction sud, très difficile. Henri IV, ça remonte jusqu'à Charest pour le moment. Duplessis, ça remonte jusqu'à la 40 aussi. Au ralenti, c'est en raison d'un accident qui a eu lieu un peu plus tôt. Tout est réglé, mais la congestion resterait bien présente.
Une grève qui s'éternise et on comprend pas trop pourquoi, c'est la grève des ingénieurs de l'État. Et là, ça a des répercussions un peu partout en province et ici même en Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Bien que deux grands projets à Lévis sont présentement retardés. Un projet qui a lieu avec le chantier naval Lévis, la construction d'un hall d'assemblage intérieur ainsi que la mise à niveau de deux infrastructures sur son site. Lévis a de gros contrats de brise-glace, donc faudrait pas que ça retarde trop. Et le pire, c'est les travaux sur le niveau et l'augmentation de la capacité de la station d'eau de Desjardins, un endroit où présentement il y a un moratoire sur la construction. Mathias, t'es comme moi, t'es comme nos auditeurs. Quand on comprend pas quelque chose qui se passe en relation de travail, on a le spécialiste parfait pour nous. Il s'agit de Marc Ranger, qui est notre spécialiste syndical et également conseiller stratégique chez Ryan Affaires Publiques. Marc, merci beaucoup de ta disponibilité ce midi.
Grand plaisir. On n'a pas chômé depuis 4 ans. Il y a beaucoup de conflits.
Oui, exactement. Et non, on chôme pas. C'est le cas de le dire. Marc, écoute, moi, je pensais que ça serait un conflit qui se réglerait rapidement. Puis je t'explique. Le président du syndicat des ingénieurs est venu s'asseoir dans notre studio, Marc-André Martin, puis il nous a dit, ouais. Écoute, Jeff, nos demandes syndicales, là, le gouvernement sort 120 millions de sa poche, là, puis c'est réglé. Fait que je comprends pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Bien, comme je dis souvent, là, dans ce dossier-là, les ingénieurs de l'État, la firme Ryan Affaires Publiques est avec eux au niveau des communiqués de presse. Fait que je suis toujours prudent pour commenter, oui. mais moi, je ne suis pas directement dans le dossier.
Parfait.
Donc, je suis quand même à l'aise de donner mon opinion. Je suis surpris. Moi, j'étais convaincu que le gouvernement voudrait fermer cette négociation-là, celle des paramédics, des agents correctionnels. On a vu les paramédics se retrousser, là, parce que les paramédics de Laval et Montréal ont rejeté l'entente de principe à 60%, mais c'est pas fini parce que il faut qu'il y ait double vote. Là. La majorité des syndicats, il faudrait qu'ils les rejettent, et la majorité des membres, fait qu'on verra ce qui va arriver. Mais bref, c'est jamais facile d'avoir des ententes de principe. Donc, il restait à peu près plus de groupes à régler entre le gouvernement du Québec et les différents syndicats. Puis moi, la chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, là, c'est que tout le monde a convenu que le maintien des infrastructures, l'entretien des infrastructures, même le ministre des Finances l'a dit, c'est la priorité numéro un. Avant de faire des grands projets de développement, il va encore en avoir, mais il faut absolument s'occuper de ce qu'on a. Puis les ingénieurs de l'État, moi, je pensais que ça se réglerait plus rapidement parce qu'ils sont au cœur de ça. Puis j'ai toujours dit que l'État doit avoir la meilleure des expertises au niveau de l'ingénierie pour pas... J'allais utiliser un mauvais mot, mais je vais pas le faire, mais pour être certain que quand il y a des contrats qui sont donnés à l'externe, qu'on en a pour notre argent. Je vais mettre ça de même.
Tiens, non, mais c'est vrai, t'as entièrement raison. Quand on pose cette question-là, justement, à Marc-André Martin, c'est ce qu'il répond. Il dit on a un rôle aussi de s'assurer que l'argent qu'on donne à l'extérieur de la machine, bien, ça soit de l'argent pour lequel on en a pour notre argent. Puis, tu sais, veux pas, quand on regarde nos routes à l'heure actuelle, nous autres, à Québec, on est toujours en train de refaire les mêmes routes pour des roulières. Je suis certain que c'est la même chose dans la région de Montréal. C'est assez décourageant ce qu'on vit.
Oui, mais là où je vais demeurer quand même optimiste, même si à date là, on voit pas nécessairement, je vois pas la lumière au bout du tunnel, mais je sais que les gens impliqués. Tu parlais de Marc-André Martin, le président de l'association des ingénieurs. C'est quelqu'un de très solide, de parlable. Je sais que le conciliateur qui est au dossier, je vous en ai déjà parlé. Je ne le nommerai pas là, parce que certainement qu'il n'aime pas ça, les conciliateurs, se faire nommer.
Ouais, ouais.
Mais c'est un solide, là. Il est de Québec. Il est solide. Et je sais que du côté du Conseil du Trésor, il y a du monde qui sont solides, qui sont au dossier. Alors, il y a des bons ingrédients. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que, parce que là, la réponse est beaucoup dans le camp du gouvernement aussi, on sait qu'ils sont déjà en mode électoral, est-ce que ça fait en sorte que ça nuit au mandat à donner? C'est possible. Mais moi, je pense que le gouvernement aurait tout intérêt à nettoyer la table, de faire en sorte de dire, j'ai fermé les livres partout. Puis je répète, là, les ingénieurs de l'État, on a besoin. On a besoin de leur expertise. Puis j'ai compris, moi, ce que j'ai entendu, c'est aussi, à votre antenne, j'ai entendu Andy, un des membres de l'exécutif.
Oui, Andy Guyas, trésorier.
Qui était encore parlable, etc. Fait que les ingrédients sont là. Maintenant, c'est sûr que dans toute négociation, surtout avec le gouvernement du Québec, il faut que, en quelque part, le politique dise oui. Mm-hmm. Et fait, est-ce que c'est là que ça bloque?
Marc, moi, je la sens pas, cette volonté politique-là. Puis là, peut-être que c'est moi qui ai un préjugé trop favorable envers les ingénieurs. Mais quand on les reçoit en entrevue, je les sens ouverts. Je sens qu'ils sont prêts à faire des concessions. Je sens que ça bloque au niveau de la volonté politique. Puis j'essaie de comprendre pourquoi.
Ben, des fois, les mandats sont très campés. Moi, je pense qu'un des facteurs, là, souvenez-vous, le règlement dans le secteur public, là, à 17,4% sur 5 ans. Et puis, c'était plus que ça, parce qu'il y avait, au niveau des ententes, ce qu'on appelle sectorielles, il y avait d'autres sommes d'argent qui étaient accordées. Fait qu'en général, là, je vais être raisonnable, mais je vais dire, ça tournait autour de 20% sur 5 ans. Puis, je pense que, je vous avais déjà dit, le premier ministre de l'époque, et là maintenant c'est Christine Fréchette, mais était resté un peu flou que les syndicats n'avaient pas reconnu que c'était des efforts qui étaient quand même importants. Mm-hmm. C'était des règlements qui étaient des bons règlements. Est-ce qu'ils sont restés avec un goût amer de ça? Mais c'est pas le moment, là.
Ben non.
C'est pas le moment parce qu'on le voit, les paramédics, là, s'ils rejettent, là. Ça fait déjà 3 ans qu'ils n'ont pas de contrat de travail, puis on en perd malheureusement parce qu'il y a du monde qui sont découragés de ne pas être reconnus. Fait que je pense que c'est des groupes qui ne représentent pas le 100 000 personnes. Là. Fait que moi, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir régler. Ça se peut que le gouvernement soit obligé de faire un effort supplémentaire, mais à un moment donné, quand l'écart n'est pas si grand que ça, faites-le le pas, vous l'avez fait dans les premières négociations du secteur public. Fait que c'est un peu mon opinion. Fait que je veux demeurer optimiste, mais là, le temps file, hein, parce que là, à un moment donné, la vraie campagne électorale va être déclenchée.
Oui, c'est ça, parce que là, on a quoi, la vraie campagne, puis je termine là-dessus, va être déclenchée début septembre, fait qu'il nous reste juste 2-3 semaines pour régler ça.
Oui, puis il parle même peut-être du 28 août, fin août. Fait que moi, je pense qu'il reste 10 jours à peu près là, pour être capable. Mais, je répète, je sais qu'on n'a pas de temps, mais un bon conciliateur, des bons porte-parole, il n'y a pas de raison que ça n'intéresse pas. Moi, c'est mon opinion.
Marc Rangeon, continue à suivre ça de près. J'ai la même confiance que toi. Je ne peux pas croire qu'on n'arrivera pas à une entente avant la campagne électorale puis qu'on ne repartira pas ces travaux-là qui sont nécessaires. Parce que si on prend une période estivale de retard, on est déjà en retard sur nos infrastructures par rapport à il y a 4 ans. Ça va vraiment mal aller pour le Québec.
Oui, on a déjà beaucoup de délais dans des travaux. On n'a pas ce luxe-là. Qui dit délai, dit argent.
Oui, ouais. Exactement. Marc Rangé, merci beaucoup. On se reparle prochainement. Hein?
Salut, messieurs.
Salut, mon ami. Marc Rangé, qui est toujours disponible pour nous, notre spécialiste en stratégie syndicale. On parle d'un autre conflit aussi par texto, 418-971-1021. Ce serait le temps que ça débloque aussi pour les employés de métier chez Hydro-Québec. 3 ans sans contrat de travail. Oui, ça, c'est inadmissible, honnêtement. Puis, tu sais, autant au niveau de la partie syndicale que de la partie patronale, parce que, hey, vivrais-tu sans augmentation de salaire pendant 3 ans, toi-là, que le coût de la vie qui a explosé?
Ben non, tu sais, ça serait rough, mettons.
Ben, c'est ça.
Tu sais, il faut que ça suive à un moment donné.
En plein ça. Ça n'a pas de bon sens. On va souhaiter que tout ça se règle rapidement. On en jase. Mathias Turcotte, t'as quel âge, donc?
22 ans.
22 ans, parfait. Vivrais-tu chez tes parents?
Présentement, absolument pas.
Non, comment ça? T'aimes pas tes parents?
Ben non. J'adore mes parents, puis ils sont peut-être à l'écoute aussi. Je vous aime, papa, maman. C'est plus, moi, je suis parti de chez mes parents à 18 ans pour aller au Saguenay. Une fois que j'ai commencé à vivre tout ça dans mes affaires, je suis revenu ici, puis la dernière affaire que ça me tentait, c'était de retourner chez mes parents. Je suis bien dans mes choses à moi.
Je te comprends. Moi, j'ai quitté un petit peu plus tard le nid familial. Je l'ai quitté à peu près aux alentours de 21 ans. Mais je vais te dire une affaire. Un coup que j'ai goûté à l'appartement, un coup que j'ai goûté à la colocation, un coup que j'ai goûté à cette liberté-là, il n'était pas question que je retourne chez mes parents. Mais aujourd'hui, on apprenait que selon Statistique Canada, 29% des Montréalais de 25 à 29 ans vivent encore chez leurs parents en 2021, comparativement à 17% en 1991. Donc, c'est une hausse de 12% en 30 ans. On pointe la crise du logement, on pointe également la hausse du coût de la vie, on pointe ainsi que les jeunes ne sont pas capables d'économiser de l'argent pour avoir accès à leur première propriété. Mais écoutez, Mathias, je veux vous entendre au 418-971-1021. La solution, c'est-tu vraiment de remettre le fardeau sur le dos de nos parents?
Ben, hey, un jeune. Ça m'étonne pour vrai. Un Montréalais sur trois de 25 à 29 ans qui habite chez ses parents.
Ben c'est ça, je peux même croire qu'on a Québec solidaire à Montréal.
25 ans, ben non, mais écrit, mais... Hey, c'est élevé, ça.
C'est élevé, c'est un sur trois environ.
Tu sais, un bac, c'est quoi? C'est 3-4 ans. Mettons que tu fais un bac, tu finis, t'as 22, t'as 23 ans. À la limite, tu fais une maîtrise en plus. T'arrives à 25 ans. 25 ans, tu t'en vas travailler temps plein. Pour moi, à partir de ce moment-là, tu t'en vas habiter par toi-même, là, de tes propres ailes.
Moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est que je comprends le coût des appartements qui est élevé, mais la colocation existe encore.
Ben oui.
T'sais, moi, j'ai été dans des 4,5 pendant longtemps en colocation, puis ça me permettait de voler de mes propres ailes, mais en même temps de réduire les coûts. Tu me l'as dit, t'as eu des colocs, toi aussi. C'est pas toujours génial, puis c'est pas toujours rose, puis c'est pas toujours évident. Mais ça fait partie de l'apprentissage. C'est ça. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Puis t'apprends justement les limites des autres. T'apprends la bienséance. T'apprends à bien vivre en communauté. Ce qui est des apprentissages qui sont intéressants. Là, sortir du sol à 29 ans, là, il me semble que tu pars avec deux prises dans la vie. C'est-tu moi qui a trop de préjugés envers ces gens-là?
Ben, je pose la question aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment, si tu travailles temps plein avec un bon salaire, puis que tu as 30 ans, puis tu fais le choix d'habiter chez tes parents, puis que tu payes pas grand-chose, puis que tu leur payes peut-être un petit montant forfaitaire par mois, tu profites-tu un peu de tes parents aussi?
Ben c'est ça. Moi, j'ai déjà vu, par contre, un de mes amis qui s'était séparé, retourné à la maison à 26 ans. Puis là, de 26 à 28, fait que sur une période de 3 ans, il est resté chez ses parents dans le sous-sol parce que le sol était tout aménagé. Par exemple, il en a profité pour rénover la maison au grand complexe ses parents. Ouais, donc, je me dis, bon, il a fait son effort. T'sais, la maison, quand il est reparti, la maison était à neuf. Ça lui a permis justement de se refaire financièrement parce que avec sa séparation, ça avait été difficile de se racheter une nouvelle propriété puis de revoler de ses propres ailes. Il est rendu avec une famille, deux enfants, tout va bien. Fait que je me dis, bon, ça a été une période tampon dans sa vie, je suis capable de le comprendre. Mais en même temps, il avait contribué pas possible. Là. Je veux dire, il a dit à son père, ben c'est bon, m'en occupe, moi, des Renault. Puis tu vas voir, quand on va repartir, je serai pas le doute qui crache dans le sous-sol puis qui fait rien. Là.
Ah non, mais j'en ai croisé du monde de 25-30 ans qui habite chez leurs parents, qui travaillent en plein, puis qui, tu sais, ils me disaient, je reviens chez nous, mon père fait à manger, mon père fait la vaisselle, ma mère fait mon lavage. Hey, on crée une
Entre
25 et 30 ans. Là.
Ben non, c'est ça. Quel adulte on est en train de développer, sinon un adulte qui va complètement se laisser traîner. Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, hey, attends une minute. Là. Puis là, je fais du pouce là, avec ce qu'on a jasé sur le vandalisme tout à l'heure. Là. Hey, on a une responsabilité parentale là-dedans. On a responsabilité de dire, je comprends que le coût de la vie est cher, là, mais là, il me semble que d'autres opportunités. T'es Marianne qui nous écrit, hey, oui, les appartements sont hyper chers, mais quand je suis parti en appart, moi, J'étais pauvre-aide. Moi aussi, j'étais pauvre-aide. Je travaillais dans un centre communautaire à 15$ de l'heure. Là. Je gagnais pas cher, puis ben, coudonc, j'apprenais à gérer mon budget. On a des amis qui sont restés jusqu'à 31 ans, je suis toujours dans les textos, chez les parents pour s'acheter leur première maison. Ouais, ben, c'est ça. T'sais, moi, dans mon cas, c'était pas une première maison. Là. C'était obligé de vendre la maison qu'on avait à cause d'une séparation, des problèmes financiers, puis on se retrouve là. T'sais, bref, je trouve que on est en train de former une génération qui va manquer de débrouillardise, d'initiative.
Mais en même temps, il y a un aspect stratégique aussi là-dedans. Quand je parle, mettons, je parle à mes amis là, qui habitent encore chez leurs parents. Certains de mes amis là-dedans travaillent à temps plein. Puis eux autres, ce qu'ils me disent, c'est ben, je pile du cash à côté, justement. Puis dans un an ou deux, je vais acheter ma maison.
Ouais, en effet.
T'sais, pendant ce temps-là, moi, OK, je suis peut-être mieux en appartement. Peut-être que je suis pas chez mes parents, mais en attendant, moi, ça me coûte des milliers de dollars en logement par année. Ça me coûte très, très cher en épicerie aussi.
Oui. Vois-tu plusieurs belles réactions par texto pour Conscio 418-971-101, une auditrice qui nous dit « Hey, moi, mon enfant a 27 ans, il vient encore chez nous. Il est en train de se mettre de l'argent de côté. Il va aller, justement, s'acheter une première maison, puis en attendant, il participe à l'épicerie. » Très intéressant. Louis qui nous écrit « Hey, ça se pourrait-tu que les statistiques soient faussées par les personnes immigrantes qui sont d'autres nationalités, puis que pour eux, c'est normal de vivre en commune comme ça, tu sais, les grands-parents, les parents, les enfants, tout le monde prend soin un de l'autre. » C'est une bonne hypothèse, oui, honnêtement, j'aime ça. On nous mentionne aussi qu'en Europe, c'est une situation qui est beaucoup plus normale. Donc, c'est vrai que ça fait très nord-américain, tu sais, de dire « Hey, j'ai mon toit, j'ai mon chez moi, j'ai mes affaires à moi, je me détache de mes parents pour devenir justement cet adulte-là épanoui. »
Puis on a des commentaires de parents intéressants qui reviennent aussi. Tu sais, un parent là, qui voit justement le coût de la vie, le coût des maisons qui augmente et tout, son enfant, mettons, a 25, 26, 27 ans, ça se peut qu'il prenne l'initiative lui-même aussi de dire à son enfant « Hey, tu peux rester chez nous, c'est pas grave, mets de l'argent de côté, puis comme ça, tu vas pouvoir te lancer dans la vie beaucoup plus facilement. »
Y a un autre sort qui écrit « C'est drôle d'entendre deux animateurs de radio qui n'ont pas 25 ans faire la leçon des parents. » Ouais, en passant, j'ai 46 ans, j'ai des kits de 18 et 16, fait que c'est moi qui fais la leçon, c'est pas Mathias, puis c'est pas des leçons que je fais. Je me pose des questions, puis je me dis qu'il faut aller à contre-courant. Marie-Ève qui mentionne que elle, ce qu'elle constate, c'est les gens qui habitent chez leurs parents sont moins motivés professionnellement. Pense plus à faire des voyages, à prendre soin d'eux que justement à devoir se forcer à travailler pour aller chercher un meilleur salaire. T'sais, moi, je le disais, ma conjointe et moi, on a deux jobs chacun. Puis on a une maison, puis on a quatre enfants. Puis on n'a pas deux jobs parce que ça nous tente d'avoir deux jobs, on a deux jobs parce qu'on n'a pas le choix d'avoir deux jobs.
Non, effectivement. Puis écoute, ça continue de rentrer. Mais tout ça pour dire, je pense qu'au final, ça dépend des situations de famille de chacun.
Exactement. C'est ce qu'on constate, qu'il y a des gens que c'est les parents qui leur ont offert de le faire, justement, en disant « Hey, va pas dépenser de l'argent en appart, c'est de la location. Ramasse-toi un cash down, achète ta première maison. Puis il y en a d'autres que, justement, ils le font, puis que les parents aussi sont à l'aise avec ceci, mais que c'est plus une initiative de l'enfant. Merci beaucoup d'avoir interagi au 418-971-1021. On adore vous lire. Vos commentaires sont toujours pertinents. Denis Gravel s'amène avec Véro et Audrey pour le retour de Gravel. Nous, on va être de retour en ondes demain à midi à l'émission Nord Jazz. Bon après-midi, Mathias.
Bon après-midi.
Salut.